Bonjour! Bonjour les amis! Bonjour tout le monde! Bienvenue! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit hier, ce matin j'avais la réunion édito avec les chroniqueurs pour l'émission Backseat de demain, qui va être une très chouette émission. Évidemment, on a plein de trucs à dire. Et donc, du coup, j'ai raté la conférence de presse de Macron. Je me suis pas spoilé, hein. Je me suis pas spoilé. Je sais pas ce qu'il a dit, hein. J'ai rien regardé. Comment va ta crève? Un peu mieux aujourd'hui, mais. Donc, on va regarder la conférence de presse de Macron, c'est ça le programme. Et oui, J'ai vu qu'il y en a qui parlaient de Flight Simulator. Vous savez que dimanche, en plein pendant les résultats des élections européennes, Microsoft a balancé le trailer du prochain Flight Simulator qui va sortir en fin d'année. Voilà. Tout le monde s'en branle, mais moi c'est important pour moi. Donc je suis giga hypé, mais tout le monde s'en fout. Merci pour l'info, camarade. Ah ouais. Non, non, ça va être trop bien. Le trailer est magnifique et tout, enfin bref. On en parlera un jour. Je m'en fous pas. J'ai pensé à toi dimanche quand j'ai vu le trailer. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Non, et là, je sors de chez Combini. J'étais chez Combini. Là, on a enregistré une vidéo qui devrait paraître demain, normalement, où je réponds à des questions sur les législatives. Donc voilà. Pardon, je vais pas vapoter en live. Hop, on va poser là. Un cumul de dinguerie cette conf. Ah, on va écouter ça. On va écouter ça. Alors j'ai réussi à choper un rip chez Le Parisien, mais on n'a pas le tout début de la conférence. Et apparemment ils ont merdé sur l'encodage ou je sais pas quoi. La conf dure plus d'une heure. Elle dure une heure et demie, ouais. Parce qu'Emmanuel Macron devait aller déjeuner avec Ursula von der Leyen. Je sais pas très bien ce qu'ils se sont dit d'ailleurs, parce que. Il va peut-être plus avoir le pouvoir dans 30 jours, donc bon. Ce sera pas lui qui sera au conseil. Tu ferais mieux de garder ta e-cigarette, tu vas en avoir besoin. LR explose et vire Ciotti aussi. Ouais, c'est en train de se passer. Les Républicains, ils ont un bureau politique aujourd'hui pour probablement virer Éric Ciotti qui est bien seul dans son aventure pro-RN. Et apparemment, il s'est barricadé à l'intérieur des locaux des Républicains. Il a fait sortir tous les salariés des locaux. Il a fermé les locaux. Il a ordonné la fermeture des locaux. On dirait une vieille prise d'otage, tu sais, le mec avec son fusil. Non, je veux pas sortir. Hop là. Un bureau politique sans lui d'ailleurs. Ouais, un bureau politique sans lui. Non, non, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer chez les Républicains. C'est pas très drôle au demeurant, hein, parce que un grand parti structurant de la vie politique française comme ça qui termine lamentablement, c'est triste. C'est triste pour tous les gaullistes qui n'ont plus de parti. Enfin, je dis ça, si ça se trouve, ils vont juste virer Éric Ciotti et puis c'est tout. Le parti va continuer à exister. Ça va clarifier la ligne du parti. Bah non, ça va pas la clarifier aux yeux des électeurs. Hein. Parce que là. Ni aux yeux des militants d'ailleurs. Enfin, la situation, elle est dramatique. Le fait qu'il ait appelé à une alliance avec le RN, c'est trop tard. Le mal est fait, en fait. Dans la tête de beaucoup de Français, c'est la circonspection. Après, il va falloir regagner les fils de la confiance avec les électeurs et tout. Ça donne raison à Pradier. Ah bah Pradier, il était très minoritaire jusque-là. Mais bon. J'ai pas compris comme une tête de file d'un parti se revendique comme gaulliste puis s'allier avec le RN. Mais tu sais, le RN aussi se revendique comme gaulliste maintenant. On est dans une confusion totale en fait. Marine Le Pen a engagé depuis 2011 la mue du parti vers un espèce de gaullisme. Elle est allée à Colombey les deux églises se recueillir. Enfin, c'est. Pour ceux qui savent pas et qui sont un peu perdus, le Front National, c'était la droite anti-gaulliste. C'est historiquement la droite de l'Algérie française. La droite du rejet de Gaulle. La droite issue de la collaboration avec le nazisme. Donc anti-résistance. Vous voyez? C'était ça, les Républicains. Non, le Rassemblement National, pardon. Les Républicains, eux, ils sont héritiers de l'UMP, qui est héritier du RPR, qui est héritier des gaullistes, en fait. C'est le camp gaulliste, voilà. Il y a toujours eu un camp gaulliste, il y a toujours eu un camp communiste aussi, qui a été plus ou moins puissant en faveur de, en fonction des moments de l'histoire, mais. Mais les Républicains sont les héritiers du gaullisme. Comme le Parti Socialiste est l'héritier de la SFIO, qui est héritier de Léon Blum, qui est héritier donc en partie du Front Populaire, etc. Enfin, voilà, il y a des héritages comme ça qui se transmettent. Pourquoi LFI est considérée comme antisémite? Il y a des gens qui considèrent LFI comme antisémite en raison des propos d'LFI dans la foulée des attaques du 7 octobre, qui n'a pas immédiatement condamné le Hamas, qui a attendu plusieurs jours pour le faire. Est-ce que tu as regardé l'allocution de Macron? Non, j'ai pas regardé l'allocution de Macron, c'est pour ça qu'on va le faire ensemble. Aussi les propos de Mélenchon sur son blog. Ah, je sais pas, j'ai pas lu le blog de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon avait fait une sortie antisémite aussi une fois. Il s'en était excusé après. On donne où pour les émissions Baxit? On donne sur KissKissBankBank. Tu vas sur le site KissKissBankBank, tu tapes Baxit, tu arriveras sur la page. Donc, on va regarder cette conférence d'Emmanuel Macron qui commence pas tout à fait exactement au tout début. Je crois qu'on rate les 2 premières minutes, un truc comme ça. Et voilà. Hop, regardez, comme c'est bien fait. Tchoum.
Mais beaucoup de choses ont été faites, des décisions prises, des textes passés utiles au pays. Toutefois, soyons lucides, cette situation a rendu l'action moins lisible et ne nous a pas permis, hélas, de bâtir des coalitions durables malgré tous les efforts déployés et que je veux saluer.
Coalition avec les Républicains, du coup.
À cela
C'est vrai que ça a échoué, ça.
s'est ajoutée l'attitude en particulier de certains députés de la France insoumise qui a créé un désordre parfois constant dans le Parlement,
Ah, il tape sur la France insoumise.
semblait inquiétant pour les Français. Qui très souvent d'ailleurs ne se retrouvaient plus dans nos institutions. Enfin, l'équation parlementaire, là aussi nous devons être lucides, devenait difficilement tenable, les oppositions ayant dit plusieurs fois leur volonté de voter une motion de censure à l'automne. J'ai donc pris acte d'un blocage qui conduisait inéluctablement à empêcher le gouvernement d'agir, ce qui devenait dangereux pour la France.
Ok, donc Macron avait vraiment peur d'une motion de censure à l'automne.
Il y a le vote de dimanche. Et donc le vote aux élections européennes de dimanche soir qui a été clair. Alors c'est un vote sur l'Europe, et je l'ai toujours dit, la conclusion est d'abord sur l'Europe. Mais les suffrages exprimés ont placé les forces d'extrême droite à près de 40% et les extrêmes à près de 50%.
Ah, il met LFI dans les extrêmes.
C'est un fait politique
Ça, c'est
qu'on
Macron.
saurait ignorer. Nos compatriotes ont exprimé par là leurs inquiétudes sur les questions de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat. Ils ont dit l'émotion ressentie face aux drames qui ont émaillé l'actualité, la difficulté à s'en sortir, même quand on travaille. et donc des difficultés très, très quotidiennes, une colère, parfois un ressentiment. Dans les villes moyennes et les campagnes, ils ont clairement dit leur sentiment aussi de ne pas être écoutés, respectés, leur difficulté à avoir accès à des services de base. À tous ces messages, nous ne pouvons rester indifférents aux sourds et nous devons apporter une réponse démocratique. C'est pourquoi la réponse, à mes yeux, ne pouvait
pas... Pour les gens qui demandent pourquoi la France insoumise n'est pas d'extrême gauche, la France insoumise n'appartient pas à l'extrême gauche française. L'extrême gauche française, elle existe, elle a une histoire, elle a des représentants, elle a des courants de pensée qui se situent du côté du communisme révolutionnaire, notamment dans le camp des trotskistes et des différentes familles du trotskisme qui existent. Donc vous retrouverez de l'extrême gauche en France chez les anarchistes, qui ne se présentent pas aux élections pour des raisons évidentes, ils sont anarchistes, c'est le principe. Vous trouverez ça aussi chez le nouveau parti anticapitaliste, vous trouverez l'extrême gauche aussi chez Lutte ouvrière. Mais la France insoumise n'est pas un parti qui s'inscrit dans l'histoire du trotskisme. C'est un parti qui s'inscrit dans l'histoire de la Révolution française, qui est un parti républicain, etc. Donc la France insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche. C'est un parti de gauche. Voilà. Gauche réformiste, non, je ne mettrai pas la France insoumise dans la gauche réformiste. La gauche réformiste, elle aussi, elle a une histoire, et elle vient plutôt de la SFIO, et je la mettrai plutôt du côté du Parti Socialiste. Donc voilà, donc non, la France insoumise n'appartient pas à la culture, à l'histoire de l'extrême-gauche française. Du tout.
Vous ne pouvez pas procéder par des changements de gouvernement ou des coalitions, d'ailleurs, qui n'étaient pas possibles au Parlement, et les derniers jours l'ont très clairement montré, mais elle imposait une dissolution qui permet seule la clarification des choses. Parce que nous sommes à un moment où notre pays doit relever nombre de défis et ne saurait être bloqué par les extrêmes, et parce que c'est un acte de confiance dans notre peuple, dans la démocratie, dans l'esprit républicain, dans notre bon sens national. Et donc le retour au peuple souverain est, à mes yeux, dans ce contexte, la seule décision républicaine. Ce moment est celui de la clarification, et à mes yeux un moment historique pour notre pays. Dimanche, j'ai en effet souligné que les élections législatives devaient se tenir dans la clarté des choix proposés. Et nous y sommes. Depuis dimanche soir, les masques tombent et la bataille des valeurs éclate au grand jour.
Quel masque tombe ?
C'est aussi
celui des Républicains, peut-être.
Une épreuve de vérité.
Et encore que Ciotti.
Entre ceux qui choisissent de faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France. Ce que nous avons vu ces derniers jours est clair. La droite républicaine, tout au moins celui qui en a la charge, vient de faire pour la première fois alliance avec l'extrême droite. Et je dis bien l'extrême droite en parlant du Rassemblement national, car ses dirigeants continuent de dire qu'il y a des vrais et des faux Français, continuent d'envisager de réduire la liberté de la presse ou de rejeter l'état de droit. La droite, donc, et tous ceux qui ont suivi le président des Républicains, M. Ciotti, tournent ainsi le dos, en quelques heures, à l'héritage du général de Gaulle, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy.
Bon, pas étonnant cette condamnation du move d'Éric Ciotti de la part de Macron.
La gauche républicaine et ses dirigeants, qui avaient exprimé, semblait-il, des choix clairs durant cette campagne européenne sur la social-démocratie, l'économie sociale de marché, l'Europe, vient de s'allier avec l'extrême gauche qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme, au fond, de rupture de fait, avec beaucoup, là aussi...
Ah oui, carrément. Donc Emmanuel Macron reproche au Parti Socialiste, qui, en soutenant Raphaël Glucksmann, avait donné des options très clairement social-démocrates à sa campagne, etc., de faire alliance à nouveau avec la France Insoumise, qu'il qualifie d'extrême-gauche, et qu'il qualifie directement d'antisémite. C'est incroyable. C'est hallucinant. Donc il renvoie dos à dos le move de Ciotti de s'allier avec le RN au move de Olivier Faure de s'allier avec LFI. Je rappelle que Olivier Faure est déjà allié à LFI dans la NUPES depuis 2022. Donc, je veux dire, c'est pas une nouveauté, le Front populaire. C'est pas nouveau.
Les choses sont donc simples aujourd'hui. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme.
C'est vrai qu'il y a des divergences à gauche.
Sur les retraites, pense-t-on une seule seconde que M. Ciotti, qui voulait aller plus loin que le gouvernement et porter à 65 ans l'âge légal, va gouverner avec M. Bardella, qui promet depuis des années aux Françaises et aux Français, avec Mme Le Pen, de revenir à 60 ou 62 ans, on ne sait plus très bien. Sur les finances publiques, pense-t-on que M. Ciotti et les Républicains qui le suivent, qui expliquaient jusqu'alors que, y compris la majorité présidentielle, était trop laxiste et qu'il fallait consolider plus vite nos dépenses publiques, va gouverner avec le Rassemblement national, dont le programme a été chiffré de manière indépendante, par un coût d'au moins 100 milliards d'euros par an pour nos contribuables. Quelle est, sur ces choses essentielles de la vie, la cohérence est ce qui unit ces gens pour gouverner?
C'est quand même ironique d'entendre Emmanuel Macron reprocher les comportements de boutiquier au parti politique, alors qu'il est lui-même en train de lancer la campagne de son parti pour les élections législatives. C'est pas très gaullien, ça.
Parce que c'est bien de cela dont il s'agit demain. De l'autre côté, que vont décider les députés socialistes, sociaux-démocrates qui font alliance avec les députés de la France insoumise sur la question de l'aide à l'Ukraine? Les uns veulent aider l'Ukraine, les autres veulent aider la Russie.
Non, c'est pas vrai, ça.
Que vont-ils décider sur le Proche-Orient?
C'est plus compliqué que ça.
Que vont-ils décider sur les valeurs de la République?
Sur le Proche-Orient, ils veulent la reconnaissance de l'État palestinien. Socialistes, écologistes, communistes et insoumis. Ça, pour le coup, il n'y a pas de divergence de point de vue là-dessus.
Parlement. Que vont-ils décider sur le nucléaire et l'énergie?
Ça, c'est vrai.
Sur chacun de ces sujets essentiels.
Sur le nucléaire, c'est pas facile. Il y a les communistes et les socialistes qui sont pour le nucléaire, et il y a les écolos et les insoumis qui sont contre.
Ces alliances sont des bricolages d'appareils, mais en aucun cas des majorités pour gouverner. De l'autre côté, se présente le bloc central progressiste, démocratique et républicain. Ce bloc qui unit des familles politiques qui ont chacune leur identité a appris à travailler depuis 7 ans ensemble. Il est uni et clair dans son rapport à la République, à l'Europe et sur ses priorités. Il est le socle d'un projet de gouvernement cohérent, je le crois, utile au pays. Nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas tout bien fait, mais nous avons des résultats. Nous avons protégé les Français face aux crises et surtout, nous saurons agir pour réindustrialiser le pays, aller vers le plein emploi, renforcer nos services publics, accélérer la transition énergétique, garantir l'unité du pays en luttant contre toutes les forces de haine, rejeter la brutalisation du débat public, aider l'Ukraine, bâtir l'Europe, répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain de nos compatriotes. Cette majorité présidentielle actuelle, je souhaite que ses dirigeants puissent aller dialoguer avec des personnalités et des forces qui n'en sont pas membres aujourd'hui. Je souhaite avant tout que le 30 juin et le 7 juillet, les Françaises et les Français puissent élire un maximum de députés de la majorité présidentielle. Mais j'ai le souhait que se rassemble le moment venu, avant ou après, les femmes et les hommes de bonne volonté qui auront ensemble su dire non aux extrêmes, mais qui se mettront en capacité de bâtir un projet en commun, sincère et utile au pays.
Bon. Au moins c'est clair, Emmanuel Macron propose une voie médiane opposée aux extrêmes, ce qu'il appelle les extrêmes, c'est le Front populaire d'un côté et le Rassemblement national de l'autre, en disant on est la seule voie raisonnable. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Cet argumentaire-là, on l'a déjà entendu.
D'ici à l'élection, et une fois l'élection passée, nous pourrons, je dirais même que nous devons et nous devrons, avoir un dialogue exigeant, constructif et ouvert, et réfléchir à la meilleure manière de servir la France ensemble. Je dis ici rassembler et non rallier, car je sais aussi les désaccords qui existent sur tel ou tel sujet avec l'ensemble de ces responsables ou de ces formations politiques. Je suis convaincu que des sociodémocrates, des radicaux, des écologistes, des démocrates chrétiens, des gaullistes, et plus largement, que beaucoup de nos compatriotes et de responsables politiques qui ne se reconnaissent pas dans la fièvre extrémiste, qui se retrouvent autour de quelques axes clairs que porte la majorité actuelle, peuvent travailler avec ces dirigeants et bâtir un projet nouveau, une fédération de projets, pour gouverner, pour agir au service des Français et pour la République.
Macron nous propose à nouveau le dépassement. Comme il l'a fait en 2017, il espère, et je pense vraiment que c'est un vœu pieux, hein, il espère trouver moyen d'avoir des alliances avec des gens du PS et des gens des Républicains pour bâtir une majorité. Ça ne marche plus, ça. Tous les gens du PS qui voulaient rejoindre Macron l'ont déjà rejoint en 2017. Tous les gens des Républicains qui voulaient rejoindre Macron l'ont déjà rejoint en 2017. Il n'y a plus personne, il n'y a, y a pas de... Le macronisme n'est pas l'avenir, je vais le dire comme ça, pour les partis politiques, pour le PS comme pour les Républicains. T'as pas envie de faire partie de l'équipage du Titanic. Il est seul, ouais, je suis d'accord, il est seul. Il est seul, au milieu, sur sa position centrale, qui essaye de convaincre tout le monde que les autres, c'est des extrémistes. Son alliance, c'est bon, elle n'est pas contre nature. Oui, c'est ça, exactement. Lui, son alliance à lui, elle n'est pas contre nature. C'est celle des autres qui est contre nature. N'importe quoi.
Pour cela, il faut essayer d'être clair sur l'idéal qu'on poursuit et les quelques axes prioritaires et sur une méthode. C'est ce que je veux ici m'employer à faire. Premier élément de vision,
alors, autour des son programme.
À la fois la majorité va s'inscrire dans les prochaines semaines et aussi ouvrir, discuter, c'est la protection de nos valeurs républicaines et par cela la protection même de nos compatriotes. Je le disais, la montée de l'extrême droite doit être entendue dans le message qu'elle envoie. Beaucoup de nos compatriotes qui se sont exprimés...
Comment ça ?
On nous ont dit leurs doutes profonds sur ce que nous sommes en train de devenir. Et l'inquiétude existentielle, le sentiment de dépossession qui est le leur, le sentiment parfois de ne pas être assez écouté ou considéré. La lutte contre ce sentiment de dépossession suppose d'abord une fermeté accrue vis-à-vis de tous ceux qui considèrent la citoyenneté française comme une somme de droits à la carte. Elle implique aussi des devoirs et des engagements pour la nation. Elle implique, ce faisant,
non,
plus d'autorité républicaine pour s'en assurer.
Non.
Alors, beaucoup a été fait. Ce n'est pas le lieu ici, j'y reviendrai dans les questions si besoin était de le redire, mais...
On va voir la suite de son argumentation, mais là, ce que j'entends, c'est qu'il faut entendre ce que nous ont dit les électeurs RN, donc il faut tenir compte d'une partie de leur manière de voir les choses. Donc, la citoyenneté ne doit pas être à la carte. Autorité, devoir, etc.
Recrutement de policiers, de gendarmes, de magistrats d'une manière inédite dans notre histoire contemporaine. Loi contre le séparatisme, lutte sans merci contre le trafic de drogue, loi sur l'immigration. Mais force est de constater que tout cela n'a pas été assez vu, senti, compris par nos compatriotes.
Bah si, du coup ils ont voté RN.
De manière implacable, continuer d'agir. Pour plus de sécurité, plus de fermeté. Mettre en œuvre les lois qui ont été votées, comme nos textes européens, pour réduire l'immigration illégale. Prendre des décisions aussi simples du quotidien, comme la reprise en main par l'État et le meilleur contrôle de la question des mineurs non accompagnés, qui, dans tant de villes, sont un problème de sécurité. Répondre avec aussi plus de fermeté à la montée de la violence des mineurs qui mine la cohésion nationale, avec des mesures là aussi claires et radicales qui sont en train d'être préparées. Et répondre à ce sentiment qui existe d'impunité par une justice dont on a augmenté les moyens, mais qui doit aussi aujourd'hui répondre avec des peines plus rapides, plus sûres, plus lisibles.
Emmanuel Macron met la barre à droite toute. C'est sa manière à lui de répondre à la montée de l'extrême droite.
Ça fait partie des réformes indispensables que nous devons prendre. L'autorité républicaine, donc, à tous les étages, avec des éléments très clairs que je viens d'évoquer, qui est le renforcement d'un axe régalien. Mais je veux ici le dire avec beaucoup de clarté. Ce que nous proposons, c'est plus de fermeté, mais dans le cadre de la République et de ses valeurs. Et c'est aussi cela qui nous oppose aux deux blocs que j'évoquais aux deux extrêmes. Ce qui est proposé aujourd'hui par l'extrême gauche, c'est une réponse par le communautarisme et le laxisme. Ce qui est proposé par l'extrême droite et ceux qui s'y allient, c'est une réponse à l'insécurité par la sortie de la République, de ses valeurs, de son socle même. C'est de dire « je vais répondre à l'immigration en ne respectant plus le principe de l'asile, hors sujet ». C'est de faire croire aux Français qu'il faudrait sortir de nos principes constitutionnels pour pouvoir répondre efficacement à la question de la sécurité. Nous, nous pensons qu'il faut plus de fermeté, mais dans la République et par la République. Ensuite, nous devons regarder en face le fait que ce sentiment de dépossession place la question de la laïcité au centre. La République doit respecter tous ceux qui croient et toutes les religions, comme tous ceux qui ne croient pas. Mais en étant clair sur le fait que jamais une religion ne doit permettre de sortir des lois de la République ou de se placer au-dessus de celle-ci. Nous le voyons bien au quotidien, par des polémiques qui montent, par ce que nos élus peuvent vivre, parce que nos associations parfois ont à vivre, qu'il y a le sentiment que la laïcité n'est parfois pas bien appliquée, que nous ne sommes pas au clair. Nous devons, comme le président Chirac l'avait fait d'ailleurs il y a 20 ans de cela, rouvrir un grand travail apaisé, exigeant, républicain dans la nation, et placer avec tous les élus, les bénévoles, les associations qui vivent cela, les entreprises qui vivent cela au quotidien, ouvrir un grand débat sur la laïcité et prendre des mesures claires sur les sujets qui sont à régler et à trancher. La protection de nos valeurs républicaines se joue aussi sur le temps long, et cela en fabriquant en éduquant des républicains, des citoyennes et des citoyens libres. Après avoir réinstauré l'instruction civique, l'enseignement culturel et artistique, nous sommes attachés à recréer des rites républicains. C'est pourquoi le service national universel doit être généralisé
jusqu'à
la rentrée 2026. Et puis...
généralisation du SNU à la rentrée 2026. L'embrigadement de la jeunesse assumé. Alors, il parlait tout à l'heure de dépenses inconsidérées dans les programmes des candidats. Celle-là, on peut en parler aussi. Ça, c'est pour parler que du pognon, mais même sur le fond, le SNU, c'est un scandale. Les jeunesses macroniennes, c'est ça. Ah, oh, mon Dieu. C'est la jeunesse qui va faire les frais de ces coups de boutoir.
Je vais insister sur un dernier point à cet égard. C'est le fait que ce que nous vivons dans le pays, qui crée tant de tensions, c'est souvent et avant tout l'échec de notre modèle d'intégration. Alors ça passe par l'école, j'aurai l'occasion d'y revenir, ça passe par aussi une intégration de tous de manière juste et équilibrée dans la vie économique, et là-dessus nous devons renforcer la lutte contre les discriminations, même si beaucoup de choses ont été faites. Il y a encore beaucoup trop de discrimination économique, d'accès aux emplois dans notre pays. Et c'est la possibilité, dans un pays qui est pluriel et riche de sa diversité, d'avoir une véritable intégration républicaine. Elle est aujourd'hui par trop défaillante. Et elle conduit, ce faisant, à avoir une France qui se met dos à dos. Et là aussi, ce à quoi nous croyons, c'est une réponse à ce problème d'intégration par la République et l'universalisme républicain. Là où aujourd'hui, les autres offres politiques qui sont soumises à nos compatriotes d'ici à 18 jours, c'est d'une part à l'extrême gauche une réponse par le communautarisme et la fragmentation de la République, et à l'extrême droite, c'est une réponse par l'exclusion de certaines et certains en nous disant « vous êtes un vrai Français, vous n'en êtes pas », ce qu'ils continuent de dire. La réponse par l'universalisme républicain est...
J'ai l'impression que ça va être le thème de cette conférence de presse. Hein. Se placer en rempart contre les extrêmes, les deux extrêmes étant renvoyés dos à dos, dans un gros gloubi-boulga, et la voie médiane, la voie de la raison, la voie de la République, etc. C'est le late macronisme, un peu dégénéré.
Exigeant, effectif, et celle dans laquelle nous croyons. Deuxième élément de cap, la vision sur laquelle nous devons inscrire les 3 semaines à venir, c'est l'ambition écologique et économique. Je le disais, parfois y compris dans les formations de la majorité, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Mais nous avons tous en partage l'idée que la puissance et l'indépendance de la France, de même que le financement de notre modèle social, supposent une économie forte et le travail de tous. Et là-dessus, nous avons un bilan. Ce que je dis là, ce n'est pas des promesses, ce ne sont pas des propos d'estrade. Nous avons, ces 7 dernières années, créé plus de 2 millions d'emplois, commencé à réindustrialiser le pays, défendu son indépendance, renforcé sa souveraineté agricole, industrielle. Nous sommes en train de préparer des textes en la matière sur l'industrie verte et l'agriculture qui reprendront dès que les Français, je l'espère, auront fait confiance à cette majorité. Et donc, il y a un bilan solide qui est là. Mais nous voulons amplifier l'action pour la réindustrialisation et la réouverture des usines sur nos territoires, la création d'emplois, la reconnaissance du travail, l'indépendance énergétique, agricole et technologique. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut continuer à libérer les contraintes réglementaires et fiscales qui pèsent sur ceux qui veulent prendre des initiatives, et donc renforcer la simplification pour les entrepreneurs, les petites aussi et moyennes entreprises, et encourager le travail plutôt que l'inactivité. Nous sommes de ceux qui assument d'investir dans la recherche, dans l'enseignement supérieur, dans les technologies futures, où la France doit prendre toute sa part. Et nous sommes de ceux qui n'opposent jamais science et écologie, ou économie et écologie, et veulent poursuivre sur le chemin de l'écologie à la française, qui permet de créer des richesses, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'accompagner les plus vulnérables qui sont légitimement inquiets face à la transition. Et c'est aussi pour ça que programme de gouvernement à venir devra acter des décisions fortes, comme par exemple 8 nouveaux réacteurs nucléaires indispensables à cette...
Ça a déjà été annoncé. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Emmanuel Macron, là, il nous fait des grands principes. Je vous le disais, il se positionne entre les deux extrêmes, mais ce n'est pas le souffle nouveau du macronisme. Hein.
C'est aussi cette ambition économique qui permettra de réduire le déficit par l'activité et la création de richesses et des réformes ambitieuses. Et l'action gouvernementale devra continuer de s'inscrire dans le sérieux budgétaire, sous peine de céder à l'affaiblissement du pays et l'appauvrissement des épargnants que promettent l'extrême droite et l'extrême gauche. Et là aussi, le cap que je donne est clair. Il unit toutes les forces de la majorité, et je le crois très profondément, il permet aussi de bâtir des chemins d'alliance avec tous les responsables politiques que je viens d'évoquer. Mais quelles sont les autres offres sur ce sujet ? À l'extrême droite, on nous explique qu'il faut choisir entre l'écologie et l'économie. C'est un renoncement au projet écologique. C'est ça, l'extrême droite, et la droite qui s'allie à elle. À l'extrême droite, il n'y a pas de projet de renforcement économique parce qu'il y a l'abandon de tout ce qui fonde l'attractivité du pays, la capacité à garder des investisseurs. Et donc, on ne peut pas dire on est pour le réinvestissement, l'agriculture et autres, si en même temps, on propose de saper toutes les réformes qui ont permis de réinvestir dans notre pays. Quant à l'extrême gauche, par sa politique de taxation totalement déraisonnable, par sa politique de sortie du nucléaire, encore défendue par une majorité de ceux qui aujourd'hui constituent cette alliance, elle est tout à la fois l'impossibilité de suivre un chemin écologique crédible et l'affaiblissement, là aussi, du pays. Et donc, les deux blocs aux extrêmes, c'est un appauvrissement du pays et de nos compatriotes. Troisième axe de vision, d'idéal auquel nous croyons, c'est celui du progrès et de la lutte contre les inégalités de destin. Nous sommes tous attachés à un modèle social protecteur, financé, responsabilisant. Et d'ailleurs, nous l'avons montré. Il n'y a jamais eu un tel réinvestissement dans les services publics depuis 7 ans. Services publics par les Maisons France Services, le réinvestissement dans la justice, plus 60% de son budget, et dans les forces de sécurité, dans notre école, avec une augmentation de nos enseignants qui n'avait pas été connue depuis les années 90, de notre santé avec une augmentation pour les soignants qui n'avait pas été connue depuis les années 60. Reste que si le modèle français corrige les inégalités, il échoue trop souvent à les prévenir. Et il me semble que le cap qu'on doit se donner pour les années à venir est assez simple sur ce sujet. Il faut renforcer notre capacité à lutter contre les assignations à résidence et mieux prévenir les inégalités de départ. C'est ça la promesse républicaine. Et ce sont les inégalités, les injustices qui sont les plus insupportables pour nos compatriotes.
Moi, j'ai l'impression d'entendre Macron 2017 en version radicalisée. C'est-à-dire caricatural. C'est les mêmes propositions, c'est les mêmes thèmes de campagne, c'est les mêmes idées, ça n'a pas changé, c'est les mêmes propositions, dans une version simplifiée, quoi. Avec ce jeu de « à part moi, c'est le chaos ». Tout le monde est extrême à part moi, moi je suis la solution pour la République, les autres c'est des extrémistes.
Je veux dire très simplement, le gouvernement à venir devra avoir une réponse renforcée et crédible en matière d'accès à la santé, de lutte contre les déserts médicaux, de prévention en matière de santé, et en matière de protection, d'accompagnement de nos enfants et de notre jeunesse. Priorité indispensable, et pour ça, il faudra prendre des mesures fortes. Il appartient à la majorité de construire en campagne, je l'espère demain, à bâtir dans un accord de gouvernement ou dans plateforme d'action. Mais nous devons, pour nos enfants, agir de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus claire, procéder à une vraie révolution de l'action publique pour l'enfance et pour la jeunesse, des 1000 premiers jours jusqu'à 20 ans. Aujourd'hui, nos enfants sur le territoire ne sont pas pris en charge de la même manière selon les quartiers d'où ils viennent. Et le paradoxe, c'est qu'ils sont souvent beaucoup plus abandonnés quand ils viennent de milieux beaucoup plus pauvres. Aussi, il nous faut rebâtir notre aide sociale à l'enfance. C'est une vraie politique nationale qui est à construire. De prise en charge des enfants, d'accompagnement des familles pour prévenir ces inégalités de départ. C'est ensuite de rebâtir notre école républicaine. Et après le rétablissement des savoirs fondamentaux, le dédoublement des classes que nous avons fait, nous redonnerons le pouvoir aux professeurs qui auront plus de liberté pédagogique, aux directeurs qui pourront rémunérer et recruter plus librement, mais avec aussi des choses très simples. La formation des enseignants, le respect des maîtres en classe, les contrats avec les parents, le renforcement des mathématiques, les remplacements des heures d'absence, l'amélioration de l'orientation, autant de chantiers essentiels pour nos enfants, leurs familles. Et puis sur ce chantier de la jeunesse et des enfants, pour prévenir les inégalités, il y a la question des écrans. Et je pense que c'est
les écrans
de l'action à venir.
Ah, c'est la faute des écrans.
Tous les experts le disent, l'addiction aux écrans est le terreau de toutes les difficultés. Harcèlement, violence, décrochage scolaire. Et pour y faire face, fort du travail qui a été fait ces derniers mois, le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants. D'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans, et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans. Il faut un âge pour la majorité numérique, ça protège. Et il faut former pour cela.
Macron a toujours eu un rapport extrêmement conflictuel à Internet. Pour lui, Internet, c'est pas ce que c'est pour vous et moi, c'est-à-dire un lieu de culture, d'une culture propre d'ailleurs, la culture web. C'est pas un lieu d'expérimentation, c'est pas un lieu de révélation des talents, des artistes, etc. Pour Emmanuel Macron, Internet, c'est le lieu du harcèlement, c'est le lieu de l'invective, et c'est le lieu de l'influence russe. Et pour ces trois raisons, Internet, en fait, c'est le mal. C'est pas bien. C'est mieux de lire un livre que d'aller sur Internet. Et c'est un truc qui est très 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 ancré chez lui. Il a toujours été comme ça. Macron n'a pas de culture numérique. Macron n'a pas de culture numérique. Macron n'est pas un internaute. Macron va pas sur Internet. Regardez, même Bardella, il avait une chaîne YouTube quand il avait 12 ans. Macron, lui, pour lui, Internet, c'est l'enfer.
Quatrième axe clair, c'est de mieux vivre au quotidien. Vous le savez, nous avons toujours engagé notre action autour de l'efficacité. Nous avons beaucoup fait là aussi en la matière, mais nos compatriotes, à l'évidence, nous ont envoyé un message simple. Leur vie ne s'est pas assez améliorée. Ils veulent mieux vivre au quotidien. Il faudra donc que les forces de la majorité bâtissent des réponses concrètes sur ce sujet, Premier ministre a commencé de le faire avec plusieurs ministres autour de lui depuis le début de cette campagne, sur la question du coût de l'énergie. Il y aura aussi la question du pouvoir d'achat. Le travail doit mieux payer. Beaucoup a été fait. Mais je souhaite qu'on continue d'être plus ambitieux pour mieux partager, en quelque sorte, les revenus du travail et de la richesse.
Ah, et à ce titre, comment on partage les revenus du travail ?
Faire avec des primes, sans charge ni impôt.
Des primes, évidemment.
Donner beaucoup plus simplement des indépendants jusqu'aux salariés des grands groupes doit être mis sur la table. Parce que c'est quelque chose qui permet d'améliorer le quotidien de ceux qui travaillent et qui parfois ont des salaires qui restent modestes.
Les primes, ça a un double avantage, c'est qu'il n'y a pas de, cotisation dessus. Donc ça échappe complètement à l'imposition. Et en plus, c'est à la main du dirigeant d'entreprise. Alors ça peut faire l'objet de négociations avec les partenaires sociaux dans les entreprises, dans le cas des accords de branche, mais surtout les accords d'entreprise sur les répartitions en fin d'année. Mais voilà, c'est désocialiser les primes. C'est pour ça que c'est pratique.
Modeste. Donc il faut rouvrir ce chantier qui n'est pas coûteux pour les finances publiques, parce qu'en quelque sorte, c'est une liberté donnée aux indépendants, aux entreprises, de mieux payer leurs salariés sans avoir d'impôts ou de charges. N'y aurait-il pas ces allègements d'impôts et de charges, en tout cas ces suppressions, ils ne le distribueraient pas. Et puis je souhaite que puisse rouvrir le grand sujet du temps partiel subi, des emplois rémunérés sous le SMIC, de tous ces métiers mal rémunérés.
Oui, ça c'est une bonne idée, ça.
Pour nos jeunes, il faudra ouvrir la question de l'accès au logement et bâtir avec toutes les forces productives une vraie réponse sur l'accès au logement des jeunes.
Le blocage des prix des loyers.
On met un coup de pas sur ce sujet. C'est un sujet sur lequel nous n'avons pas assez avancé et où la réponse a été trop timide et j'en porte la responsabilité.
Ok, mais à coup de pas de la part d'Emmanuel Macron sur le logement des jeunes. Il souhaite l'ouverture d'un chantier spécifique sur cette question. Dont acte. Très bien.
Et puis il y a la question des retraites et de la vie de nos retraités. Après une vie de travail, nos anciens légitimement veulent pouvoir vivre avec quiétude. Et là-dessus, je le dis, nous avons agi en augmentant les pensions les moins élevées grâce à la réforme des retraites. En réformant, d'ailleurs en travaillant là aussi, sous le mandat précédent, avec d'autres républicains de toutes les rives, si je puis dire, des communistes, jusqu'à la droite républicaine, pour améliorer les retraites agricoles. Et donc on a beaucoup fait, et sur ce sujet, j'ai entendu beaucoup de rumeurs ces derniers temps, je vais être très clair, les retraites seront bien indexées sur l'inflation. Le pouvoir d'achat des retraités, ce n'est pas une variable d'ajustement pour nous. Mais là-dessus, il faut aussi être clair. La majorité présidentielle est la seule à proposer ça, clairement. Et du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent en passant par les jeunes et les retraités, à avoir une vraie réponse. Que proposent les autres ? De revenir sur la réforme des retraites, c'est-à-dire de supprimer d'abord ce qui a été fait pour les retraités les plus modestes, mais surtout de mettre le système de retraite en banqueroute. Le rapport du COR est en train de montrer qu'il faut... On n'est pas encore à l'équilibre.
Donc, la réforme n'a pas marché.
Ils proposent pour nos retraités. Ils leur proposent de ne plus pouvoir leur payer leur pension. Ou alors, ils proposent d'avoir des charges beaucoup plus élevées, en tout cas des cotisations pour la retraite qui vont augmenter. Et donc, tous ceux qui reviennent sur la...
Technique classique, je vais faire mon Clément Viktorovitch 2 minutes. Technique classique qui consiste à diaboliser la proposition adverse en montrant qu'elle est irréaliste parce qu'on en prend le scénario le plus improbable et le plus radical. Au demeurant, Macron n'est pas le seul à faire ça. La gauche aussi le fait toute la journée. C'est une technique rhétorique classique en politique.
La réforme des retraites... Du bloc d'extrême-gauche au bloc d'extrême-droite, c'est soit un projet d'appauvrissement des salariés, soit un projet d'appauvrissement des retraités. Mais il n'y a pas de recette miracle, puisqu'ils refusent le projet d'allongement de la durée du travail. Le seul projet responsable, transparent, que nous avons fait, il n'a pas été populaire, je m'en suis aperçu. C'est un projet qui correspond à l'éthique de responsabilité. On vit plus longtemps, il faut travailler un peu plus longtemps, en prenant en compte les carrières longues, les chemins les plus difficiles. Que proposent les deux autres forces de gouvernement ? Pardon, les deux autres forces d'opposition, dont j'espère qu'elles n'accèdent pas au gouvernement. Simplement, quelque chose qui est incompatible avec la préservation du pouvoir d'achat.
Non, la réouverture des discussions par les partenaires sociaux, par exemple.
Quant à la retraite.
Ceux qui n'ont pas été consultés.
Vivre mieux, c'est aussi une vie plus simple, notamment dans le rapport à l'État, aux normes, aux services publics. C'est le message qui nous a été envoyé. Il faut donc aller vers une stabilité fiscale normative pour les 3 ans à venir. simplifier drastiquement et alléger là aussi le rapport de territoire. On le voit bien, il y a un besoin de liberté et de proximité qui s'est dit dans cette campagne. Et donc il nous faut déconcentrer beaucoup plus rapidement, mais il faudra supprimer un échelon territorial pour ramener plus de simplicité et de liberté sur les territoires.
Lequel ?
Rouvrir la question de ces grandes régions qui ont éloigné la décision et redonner la liberté.
Ça, alors ça, voilà, ça, typique. Et c'est pas que Macron, hein. Beaucoup de gens, beaucoup de candidats font ça dans les élections, promettent la fin du millefeuille territorial en disant « faudra supprimer une strate ». Mais jamais ils disent laquelle. Merci Julien. Jamais ils disent laquelle. Jamais ils disent « ce sera les conseils départementaux », ou « ce seront les conseils régionaux », ou « ce seront les conseils communaux ». Jamais ils le disent.
Liberté de choix sur le terrain à nos compatriotes s'ils veulent revenir sur ce sujet, et permettre là aussi d'avoir des réformes de simplification, une plus grande vitalité démocratique, plus grande simplicité, pour éviter simplement que la réponse ne se fasse par des dépenses en plus. Enfin, vivre mieux, c'est reconnaître que...
C'est des propos de campagne, hein, c'est des propos de campagne, je ne vais pas les commenter, voilà, c'est appel à plus de simplicité.
Nous devons
tout le monde
avoir
fait ça.
Une réponse beaucoup plus drastique sur l'accès au transport, à la santé, au logement. Beaucoup de choses ont été faites, mais force est de le constater, ça ne va pas assez vite. Ça n'est pas perçu, ça n'est pas tangible. Et donc là, il faut une révolution copernicienne d'action. Et puis le cinquième élément, pour moi, de vision, construction de cet idéal, c'est la ligne diplomatique et la place de la France que nous défendons. Il y a une cohérence dans toutes les forces de la majorité gouvernementale aujourd'hui, c'est que nous avons une même vision du pays, de sa diplomatie. France, puissance de paix et d'équilibre, du rapport évidemment à l'Ukraine, de la position sur le Proche-Orient, mais également de notre place en Europe et de la vision que nous avons de l'Europe, d'une France puissance militaire indépendante, avec, je le rappelle, deux lois de programmation militaire qui auront permis à leur issue de doubler le budget des armées. Là-dessus, je le dis, les deux blocs aux extrêmes ne permettent pas ce schéma. À l'extrême gauche, c'est une vision balkanisée de notre politique, de notre diplomatie. D'ailleurs, ça n'est pas une diplomatie possible, je le rappelais tout à l'heure, ni vis-à-vis de l'Ukraine, ni par rapport au Proche-Orient. C'est une opposition de certaines forces à la dissuasion nucléaire française et une opposition à l'OTAN. Et à l'extrême droite, c'est aussi, dans un moment historique du pays, des schémas et des positions.
Il continue à dire ça alors que, je veux dire, François Hollande a été président de la République, il n'était pas d'extrême-gauche dans sa politique internationale. On l'a vu, il était même plutôt va-t-en-guerre avec la Libye. La Syrie. Cette idée qu'il n'y aurait pas de cohérence dans les politiques étrangères de la gauche, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des désaccords, par contre, notamment sur l'OTAN.
Sont clairs qui ont été définis, sortis de l'OTAN. Remise en cause, là aussi, pour certains, de ce rapport à la diplomatie et à notre indépendance et ambiguïté à l'égard de la Russie. Ces cinq priorités, c'est une clarification de ce en quoi nous croyons, de l'idéal partagé par les forces de la majorité présidentielle. C'est important de le rappeler parce que moi, je crois qu'on peut bâtir une campagne sur une vision claire et on peut discuter avec les autres sur une vision claire. Ça permet de tenir un cap pour le pays, qui est de réussir la réindustrialisation et le plein emploi, rétablir un État régalien pleinement armé d'ici 3 à 5 ans, de réparer notre école et notre système de santé d'ici à 2030 et de décarboner notre économie d'ici à 2050. Et donc, c'est un chemin ambitieux, mais il est crédible pour le pays. C'est cela, celui dans lequel je souhaite que les forces de la majorité puissent engager cette élection législative. Vient ensuite la méthode. Sur cette base, le Premier ministre, à ses côtés, les responsables des forces de la majorité et tous les engagés à ses côtés auront à bâtir le programme, à le porter, à défendre cette vision. Mais je souhaite que cela puisse être fait, nous puissions le faire dans cette logique d'ouverture, de construction avant et après l'élection que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous sommes prêts à intégrer les propositions de sociaux-démocrates comme de responsables venant de la droite gaulliste, d'écologie, soit en matière d'ordre républicain, de justice sociale, d'écologie, qui viendraient nourrir cette cohérence.
Voilà, à nouveau la main tendue vers le PS et vers les Républicains. Moi, je trouve ça très étrange d'écouter Macron dire ça, là. Cette conférence de presse, là, je l'écoute. J'ai l'impression d'un homme en campagne qui pense qu'il peut avoir une majorité de députés dans un mois, dans 20 jours. Alors que, enfin, je veux dire, tout le monde est assez lucide sur le fait qu'il va pas pouvoir mettre en œuvre ce plan-là. Je sais pas, c'est très étrange. Ça pue la défaite, oui, c'est un peu ça.
Et le message clair que je veux envoyer ce matin, c'est qu'il y a une vision claire, il y a un idéal qui est partagé par cette majorité autour de ces cinq axes. La fédération de projets, ça n'est pas qui même me suive. Ça n'est pas vous viendrez vous y mettre et l'appliquer à l'issue. C'est la volonté sincère et humble de bâtir des consensus, de tisser des compromis pour faire avancer le pays plus vite et plus fort autour de ces axes, mais en s'ouvrant, en partageant, en co-construisant. Je souhaite que se rassemblent pour gouverner tous ceux qui défendent sans ambiguïté les valeurs de la République, qui veulent le progrès et la justice, qui sont aussi attachés au respect dans le débat public, qui veulent une France et une Europe plus fortes. Et je veux aussi que, au-delà de la construction avant et après l'élection, autour de, au fond, ces quelques idées, il puisse y avoir une manière de faire et de bâtir des solutions utiles, comme nous avons commencé ces deux dernières années à l'esquisser avec ces conseils nationaux de la refondation, à bâtir avec les forces économiques, les forces sociales et syndicales et les élus locaux des solutions de consensus pratiques pour mobiliser la nation. Les choix des 30 juin et des 7 juillet prochains sont donc simples. C'est qui pour gouverner la France? Qui pour prendre en charge notre quotidien, celui de nos enfants et notre avenir? Et vous l'avez compris, j'ai essayé de le redire à chaque fois, je crois très profondément que les forces politiques qui constituent aujourd'hui la majorité présidentielle ont seules la capacité de porter un projet cohérent, réaliste et d'avenir. Et ma volonté, c'est qu'elles agissent dans cette campagne et le jour d'après, avec un esprit de fédération de projets, une volonté de construire avec et de rassembler toutes celles et ceux qui, sincèrement, ne peuvent pas se retrouver dans les alliances avec les extrêmes des deux côtés. C'est à cette refondation de la vie politique, maintenant, que j'appelle, avec beaucoup d'humilité et de détermination, et c'est ce que le Premier ministre.
Refondation de la vie politique après 7 ans au pouvoir. C'est ça aussi que je veux dire dans ce côté un peu hors du temps de cette conférence de presse. C'est comme si c'était une offre nouvelle, comme s'il y avait une proposition d'un truc qui allait tout changer, du sol au plafond, etc. Au demeurant, il a sa cohérence politique propre, Emmanuel Macron. Il continue à vouloir faire du macronisme. Mais j'ai vraiment l'impression que l'atmosphère a changé, quoi. Qu'il y a une grosse atmosphère d'extrême droite, qu'on a vu aux élections européennes, qu'il y a aussi une atmosphère de gauche, qui a encore besoin de mobiliser, mais je sais pas, c'est assez intéressant.
Et les responsables de la majorité actuelle auront à bâtir dans les 18 jours qui viennent, dans l'entre-deux-tours, et je le souhaite profondément, dans le paysage parlementaire qui sortira de cette élection. Voilà les messages que je voulais
Bon, allez, on veut les questions maintenant.
partager avec vous et
Les questions des journalistes.
que je
Est-ce que vous allez
voulais
démissionner?
dire les convictions simples de l'idéal que nous proposons et de la méthode que je souhaitais pour la suite. Je vais maintenant répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir.
Monsieur le Président, bonjour. Julien Nény pour France Télévisions. Depuis dimanche, beaucoup des Français qu'on a pu interroger, malgré vos explications, ne comprennent pas votre choix de dissoudre l'Assemblée nationale. pour une raison simple. Ils craignent, certains d'entre eux, que d'ici moins d'un mois, vous soyez le président qui, pour la première fois en France depuis 80 ans, donne les clés du pouvoir à l'extrême droite. Alors la question est simple. Est-ce que, monsieur le président, aujourd'hui, vous assumez personnellement et politiquement les conséquences et l'éventualité de ce résultat ?
Bonne question.
D'abord, il m'arrive de regarder les sondages, oui, comme vous. Les sondages, depuis dimanche, indiquent plutôt que les deux tiers des Français, deux Français sur trois, comme on aurait dit jadis, comprennent et veulent cette dissolution. Donc je ne partage pas cette interrogation. Je reflète juste que beaucoup de vos confrères ont pu écrire ou révéler. Je pense que le retour au peuple...
J'ai pas vu ce chiffre, je ne sais pas.
Compréhensible.
C'est possible, hein ?
C'est un principe démocratique. Ensuite, pour vous rassurer, je l'assume totalement, puisque c'est un pouvoir constitutionnel qui revient au président de la République. Mais surtout, nous venons là déchirer l'hypocrisie et les malentendus qui étaient à l'œuvre. Comment voulez-vous, que m'auriez-vous dit le jour d'après, si j'avais été devant vous, à l'issue de dimanche soir, avec 50% des Français qui votent aux extrêmes, en vous disant « on ne change rien, on continue ».
Se prendre une tôle aux élections quand on est au pouvoir, c'est normal. C'est le jeu. Quand on est au pouvoir, on devient impopulaire et donc les gens dans les élections intermédiaires choisissent de voter pour les oppositions. C'est classique. Si tous les présidents de la République avaient dissous l'Assemblée nationale à chaque fois qu'ils s'étaient pris une tôle aux élections intermédiaires, on en aurait fait des élections législatives dans ce pays. Donc, l'idée de dire « regardez le nombre de Français qui ont voté pour l'opposition, j'étais obligé de dissoudre », non, t'étais pas obligé de dissoudre. C'est un pouvoir, c'est pas une obligation, la dissolution. T'es quand même dingue.
Vous m'auriez dit, il est déconnecté, ce type. D'ailleurs, nos compatriotes, dans les campagnes, les quartiers qui ont voté aux extrêmes, et qui ne croient pas bien souvent dans les idées des extrêmes, parce que ce n'est pas les idées du Rassemblement national qui ont encombré sa campagne européenne. Donc moi, je respecte tous nos compatriotes qui ont voté cela. Mais ils ont marqué une colère. Et il aurait dit, il ne nous a pas entendu une fois encore. Et c'est ça qui rend le pays... qui met le pays, si je puis dire, en danger. C'est ça qui aurait été irresponsable. C'est de se dire, il y a une colère qui a été exprimée, mais on va faire comme si de rien n'était. Parce qu'au fond, ça arrange tout le système. Alors oui, vous avez raison. Si deux tiers des Français comprennent très bien la dissolution, et cette décision que j'ai prise, l'écrasante majorité du système politique ne l'aime pas. Parce qu'ils préfèrent l'ambiguïté. Mais je n'ai jamais été là pour protéger le système politique. Parce que, au fond,
oh, si, tu l'as fait. Le tien.
C'est l'eau de l'extrême droite. Tout le monde, dans les cafés, dans les coursives, dans vos déjeuners politiques et les offs que vous faites avec les responsables politiques, je les lis dans vos colonnes, tout le monde disait « l'extrême droite arrive, en 2027, il donnera les clés du pouvoir à Madame Le Pen, c'est déjà écrit ». Mais tout le monde y allait de ses petits calculs, chacun tirait ses bords, chacun menait sa barque. Ben non, moi je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Donc j'assume totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification, d'abord parce que les Français nous l'ont demandé dimanche. Quand 50% des Français votent aux extrêmes, que vous avez une majorité relative à l'Assemblée, vous ne pouvez pas leur dire « on continue comme si de rien n'était ». Ce n'est pas les respecter, ce n'est pas les entendre. La deuxième chose, c'est que je veux qu'il y ait un gouvernement qui puisse agir pour répondre à leur colère et à leurs urgences. Et puis la troisième chose, c'est que, comme président de la République, le jour d'après ces élections législatives, j'aurai, comme le veut la Constitution, à tirer les conséquences et à choisir un Premier ministre. Mais ce n'est pas donner les clés du pouvoir, c'est permettre de gouverner à des forces politiques qui auront été choisies.
Pardon, mais ça revient un peu au même. Je veux dire, si Jordan Bardella est Premier ministre, c'est lui qui a le pouvoir. On ne va pas jouer sur les mots, là. C'est exactement les clés du pouvoir.
Vous êtes tout de même des drôles à penser que ce serait forcément l'extrême droite ou les extrêmes. Ou alors vous avez l'esprit de défaite répandu partout. Si les gens ont peur de cela, ben le sursaut, c'est pour maintenant. C'est bien. Voilà. Donc j'assume tout cela. Parce que c'était tout cela qui était en train de se faire, sourdement. Et donc je pense que la clarification, c'est maintenant.
Eh ben on verra dans les urnes.
Bonjour Monsieur le Président, Mathieu Coache, BFM TV. Depuis dimanche, plusieurs de vos alliés historiques, parfois des ministres, des collaborateurs, vous demandent plus Merci. Ou moins publiquement de ne pas être au centre de cette campagne pour les législatives comme vous le faites aujourd'hui. Édouard Philippe l'a dit publiquement, lui il dit que ça n'est pas sain et d'ailleurs il n'est pas présent dans cette salle aujourd'hui. Est-ce que vous interprétez le résultat de dimanche aussi comme un rejet de votre personne, et est-ce que la meilleure façon pour battre le Rassemblement national n'est pas de vous mettre en retrait et par conséquence de ne pas débattre avec Marine Le Pen comme vous le souhaitez?
D'abord, l'élection de dimanche, c'est une élection européenne. Je n'étais pas le tête de liste aux élections européennes et je ne portais pas vision. J'ai donné ma vision de l'Europe, elle est connue. Ensuite, c'est quand même étrange de dire vous allez trop loin en faisant la dissolution, mais c'est un problème personnel qui touche le président, la conséquence de dimanche. Là, ça va dans tous les sens.
Personne dit ça.
Donc, l'élection personnelle dans la Ve République, c'est celle d'un maire et celle du président de la République.
Non, pas d'un maire.
Elle s'est jouée en 2022 et pour 5 ans. Elle est claire. J'entends tout ce qui peut être dit là aussi dans les commentaires et souvent dans ce qui se passe derrière les rideaux ou les portes fermées.
Vous ne démissionnerez pas avant 2027.
Non, je tords le cou à ce canard qui n'a jamais existé.
Un canard, c'est une rumeur.
C'est absurde. Je crois dans la force de nos institutions. Écoutez, je me suis soumis à deux reprises au suffrage des Françaises et des Français. Alors j'entends tout ce qu'on dit sur ma pomme. On le disait il y a 2 ans. Il se trouve que je suis à des élections qui m'ont tout de même choisi, donc ça ne doit pas être si terrible que certains le décrivent. Après qu'il y ait des ambitions personnelles des uns des autres qui soient contrariées par les moments actuels, non tac, mais ça n'est pas grave, nous sommes dans un moment historique du pays. Bon, donc je vais vous répondre très simplement. La première chose, les conséquences politiques de l'élection de dimanche, je les ai tirées devant vous aujourd'hui. Je les ai annoncées dimanche soir, je vous les ai explicitées. Il y a une colère qui est là, il faut l'entendre, il faut lui donner un débouché, il fallait dissoudre. La deuxième chose, le président de la République, il doit donner un cap, une vision, mais il n'est pas là pour faire campagne aux législatives. Donc je ne ferai pas campagne aux législatives. De la même manière que je ne l'ai pas fait en 2022 et en 2017. Ça n'a pas changé. Je note que parfois les...
Ah non, mais si, quand même.
2022, de ne pas avoir fait suffisamment...
Là aussi, il ne faut pas jouer avec les mots. Faire campagne, ça veut dire être omniprésent dans le débat. On a entendu de sources de l'Élysée qu'il avait l'intention de prendre la parole régulièrement pendant la campagne Emmanuel Macron, de se mouiller un peu. C'est pas quelque chose que je reproche, dans le fond, d'ailleurs, à Emmanuel Macron. Il a le droit de se mouiller s'il veut dans une campagne. Il faut voir si les électeurs apprécient ou pas. Visiblement, les électeurs, en ce moment, ils n'ont pas envie de voir la tronche à Macron. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc est-ce que Emmanuel Macron va être omniprésent dans cette campagne? Est-ce qu'il va faire un débat avec Marine Le Pen et tout? C'est ça la question. C'est ça, faire campagne. Évidemment qu'il ne va pas aller distribuer des tracts, il est président de la République.
Évidemment, campagne, c'était pour cela qu'on avait une majorité relative. Enfin, ça vous montre que... Parfois chez certains ou dans la cinquième, c'est de toute façon toujours la responsabilité du président. Je m'accommode de ce sort, ça fait 7 ans que je vis avec. Mais le président n'a pas à faire campagne. C'est le Premier ministre qui va porter cette campagne, avec les responsables de la majorité qui sont là à ses côtés. La majorité est unie, le secrétaire général du groupe Horizon est là à nos côtés. Et la majorité est évidemment unie dans cette bataille. Et elle n'est pas simplement unie, elle est en situation de conquête, elle veut... conquérir de nouvelles circonscriptions et d'ouverture, de dialogue, de rassemblement. Voilà. Et donc, je n'entends pas faire campagne davantage que je l'ai fait en 2017 et en 2022. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, il est important de, à la fois, donner le cap et de donner la méthode. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui.
Et vous souhaitez débattre avec Marine Le Pen?
Non, je l'ai déjà dit. J'ai fait cette offre de clarification avant les européennes, parce qu'elle l'avait soumis. Elle ne s'est pas rendue au rendez-vous. J'ai compris que Mme Le Pen voulait rejouer la présidentielle en disant que si elle faisait un débat avec moi, il fallait ensuite que je démissionne. Je l'invite à relire la Constitution de notre République. Donc non. Dans ce contexte-là, non.
Donc Macron dit non à une démission.
Évidemment. OK. Les choses sont claires. S'il y a un endroit où les choses sont claires, je crois pouvoir vous le dire, c'est ici.
Elles sont claires au RN aussi, elles sont claires. Non, elles ne sont pas encore claires.
Longuement, vous avez évoqué à plusieurs reprises.
Au Front populaire.
La situation des villes, des petites villes, des villes moyennes, des campagnes, qui ont exprimé une colère dimanche. La plupart de ces secteurs, la ruralité en tout cas, massivement voté Jordan Bardella ce dimanche. Même des zones comme l'ouest de la France ou la Bretagne, qui vous étaient plutôt favorables. Vous nous dites aujourd'hui que vous avez entendu cette colère, que vous y répondez déjà par l'action qui a été menée. Beaucoup de choses ont été faites. Ça n'a pas été perçu, dites-vous. Vous nous annoncez une révolution copernicienne de l'action. En fait, ce sont des choses que vous avez déjà dites à plusieurs reprises au cours des 7 dernières années. Ça ne s'est manifestement pas traduit dans les faits. Ça n'a pas été perçu, comme vous dites. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce qui n'a pas été perçu pourra l'être d'ici 3 semaines? Et qu'est-ce qui vous fait croire que les campagnes, les zones rurales pourraient vous redonner la confiance ou redonner une confiance à vos candidats, alors qu'aujourd'hui, elle s'est manifestement, ces zones-là se sont manifestement...
Alors, les zones rurales.
L'Assemblée nationale.
D'abord, je vais être clair, beaucoup de choses sur la partie la plus régalienne, ça prend du temps. Non mais,
oui.
C'est ça la
réponse. Oui, oui, oui.
Quand
oui.
On a la responsabilité de gouverner, je suis obligé avec responsabilité de vous dire que ça prend du temps. Quand on veut mieux protéger nos compatriotes, il faut créer des postes de policiers, de gendarmes, de magistrats, de greffiers, ce qu'on a fait. Il faut les former, les déployer sur le territoire. Ils sont arrivés depuis parfois 18 mois ou sont en train d'arriver. Donc la recette magique, ce n'est pas 6 mois. Ensuite, il y a déjà des résultats qui sont là. Il n'y a pas une circonscription de police où il y a moins de policiers. Il n'y a pas un endroit où il y a moins de gendarmes ou de magistrats dans notre pays. Après, je pense qu'il y a des choses qu'on est en train de bousculer, qui des chantiers comme celui sur la violence des mineurs ou autres qu'on est en train de bouger, qui vont arriver sur le terrain. Mais je pense aussi que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est quand même une accélération, une intensification de la réponse républicaine, plus d'autorité républicaine. Je crois que parfois, on n'a pas été assez vite. Je l'assume totalement. Mais il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. C'est le message que je voulais donner aujourd'hui. Dans ces 5 axes, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Il faut répondre au sujet de l'impunité. Il faut répondre avec beaucoup plus de visibilité et de rapidité au sujet des petites peines. Et je crois que dans beaucoup de ces quartiers, de ces villes périphériques, de ces villages, en effet, c'est le sentiment d'être dépossédé, que cette délinquance du quotidien, il n'y avait pas une réponse qui était visible et intelligible. On doit avoir, de manière concrète, beaucoup plus d'efficacité. On ne l'a pas eu à ce stade. C'est tout à fait vrai. Sur la question de la laïcité, c'est un nouveau...
C'est une grosse critique de Darmanin, là.
Hein. ...avec cette nouvelle commission, au-delà du séparatisme. Avec le séparatisme, je peux vous le dire, ça se voit dans les quartiers, dans beaucoup de villes. Et sur la question des services publics, oui. Là, je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Vous savez... Dans toutes ces campagnes, il y a 4 ans, on nous disait on n'a pas la 4G, la 5G. Ils l'ont aujourd'hui. Alors, la vie politique n'est pas faite de gratitude. Mais maintenant qu'ils ont la 4G ou la 5G, ils disent ça ne va pas assez vite pour réparer la ligne qui est tombée, ça ne va pas assez vite, on a des connexions qu'on a perdues, il y a des axes qui ne sont pas assez développés, on a perdu des lignes de train ou parfois d'avion. C'est ça la réalité du quotidien. On a toujours du mal à accéder à un médecin. C'est là où je dis territorialement, il faut qu'on aille beaucoup plus vite et c'est la réponse de bon sens. On a commencé...
Visiblement, les gens veulent plus de services publics que de 5G.
Maintenant, je veux surtout aller au cœur de ce que je crois par rapport à votre question. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle, comme vous l'avez dit, en 3 semaines, pour dire tout va changer. Et au fond, ce qui a été fait par les gouvernements et majorités successives, mais qui sont dans la même cohérence depuis 7 ans, on va tout faire nouveau ou différent. C'est pas ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je vous ai donné des éléments d'ouverture, des intangibles, et quand même des éléments de prise de conscience, que j'assume. Moi, je pense que les 3 semaines, le temps qui s'est ouvert depuis dimanche, c'est un temps de prise de conscience et de responsabilité auquel j'appelle les Françaises et les Français. Et ce que je pense, vous avez dit dans les campagnes du Grand Ouest, mais de toutes les régions de France, qui sont d'accord avec les idées, je dirais même l'idéologie du Rassemblement national, ma réponse est non. Je vous le dis sincèrement. Simplement, ils ont dit une colère. Et donc, ma réponse solennelle, c'est de dire j'entends cette colère et on doit à la fois, dans ce qui va être proposé, dans la manière de s'ouvrir à d'autres voies et donc d'être plus respectueux de ceux qui veulent travailler avec nous comme des oppositions républicaines, La manière de mieux travailler avec les élus locaux, les forces syndicales et économiques, on doit changer le moyen d'y répondre. C'est clair. Et on doit apporter des réponses concrètes à vos colères, mais aussi une manière de faire où vous vous sentirez beaucoup plus considéré, écouté et en acte. Mais la réponse que je veux aussi leur apporter, c'est de dire « Vous avez exprimé une colère dimanche, signal reçu. On ne peut pas faire plus solennel et plus fort. » Maintenant, est-ce que l'expression d'une colère, c'est une réponse à votre quotidien ? Ben là, je vais vous dire non. Non. Et je le dis à tous nos compatriotes qui habitent ces campagnes, ces quartiers populaires, ces villes périphériques. Cette colère, je l'ai entendue, mais le projet que porte le Rassemblement national, c'est un projet qui ne permettra pas de répondre à l'insécurité que vous visez, que vous vivez. Parce qu'il fait simplement croire en quelques trucs, il explique qu'il faudrait sortir des traités, bouger notre constitution pour y répondre. Mais c'est quoi la réponse concrète qu'ils ont ? Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de réponse miracle. Ils disent juste « ça va pas ». Ils sont l'incarnation du non. Ben, on est tous pareils. Quand on en a marre et qu'on veut dire non, on envoie un message. Puis on se remet autour de la table, on veut être entendu. Mais ce n'est pas parce qu'on a envoyé un message que celui par qui on l'a envoyé a pour autant la réponse. Et le Rassemblement national, il n'a pas cette réponse à l'insécurité. Et il n'a rien dans ses propositions pour le faire. Mais surtout, et je veux insister là-dessus, ben, le jour d'après, il est une vraie réponse à vos difficultés de pouvoir d'achat parce qu'il va vous appauvrir. Et ça, je crois que c'est une prise de conscience que tous nos compatriotes peuvent avoir en tête. C'est que le Rassemblement national, on le voit d'ailleurs depuis lundi, regardez, les taux d'intérêt augmentent, les marchés s'affolent, les partenaires européens internationaux s'inquiètent. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie des Français ? L'accès au crédit coûtera plus cher. Le taux pour accéder au logement, ce sera plus cher. Parce que là, aujourd'hui...
Là, il utilise la peur comme argument. Le RN déstabilise les marchés financiers, ce qui est vrai.
Sérieux, d'une cohérence. Quand on a un projet qui est incohérent...
Je pense que la dissolution aussi inquiète les marchés financiers.
À l'extérieur du pays. Donc, c'est un affaiblissement financier. Ensuite, c'est une formation politique qui sert la démagogie à tous les étages depuis des années. Eh bien, je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, elle va soit appauvrir les salariés, soit appauvrir les retraités, sans doute même les deux. Comment financeront-ils ce qu'ils ont proposé comme étant une priorité ? La fin de la réforme des retraites, grande promesse depuis 2 ans, mais surtout promesse des 60 ans depuis 10 ans. La renationalisation des autoroutes et tant de réformes. C'est 100 milliards dès cette année. 5 à 6 000 euros par contribuable. Bon courage. Mais c'est ça la réalité. Parce qu'on ne peut pas simplement, et c'est ce sur quoi je veux faire toucher du doigt, je ne crois pas au miracle, mais simplement on précipite la clarification des choix. Et donc là, aux élections du 30 juin et du 7 juillet, il ne faut pas simplement dire non pour dire non. Il faut dire qui va gouverner le pays. L'extrême droite avec son projet qui va menacer les retraités, les épargnants, affaiblir le pays dans sa vie économique, qui n'a aucune réponse simple, claire, face aux difficultés du quotidien et qui exige l'insécurité, ou des forces démocratiques, républicaines, qui ont appris à travailler ensemble, qui sont prêtes à s'ouvrir, et qui portent quand même du sérieux et qui ont des résultats.
Il n'y a plus la gauche, il n'y a plus la gauche. Vous avez le choix entre l'extrême droite ou Macron.
En donnant la parole aux gens, je suis convaincu qu'ayant vu cette colère entendue, ils sauront regarder en responsabilité quels sont les choix pour gouverner et les choix d'avenir. Et c'est ça ce que le débat démocratiquement doit éclairer dans les 18 jours à venir et dans l'entre-deux-tours. Ce n'est pas l'expression d'une colère, ça c'est trop simple, ou d'une inquiétude. C'est qui propose quoi, concrètement ?
Bonjour Monsieur le Président, Maxence Lambrecq, France Inter. Vous parliez d'un scrutin de clarification, et moi je vais aller sur des clarifications sur le fond. Et il était question de 20 milliards d'économies dans le budget l'année prochaine. Ces 20 milliards, où allez-vous les trouver ? Sont-ils toujours d'actualité ? La réforme de l'assurance... Oui, en effet, il y a une petite liste, donc c'est mieux d'écrire. La réforme de l'assurance chômage, le décret sera-t-il publié le 1er juillet prochain ? Le tabou de la hausse d'impôts, est-ce qu'il restera d'actualité ? Est-ce que la stabilité fiscale, vous la garantissez pour les 3 prochaines années ? Que faites-vous des projets en cours ? Est-ce que le texte fin de vie sera le premier que vous remettrez à l'agenda de l'Assemblée, sachant qu'il a été suspendu, il était prêt à être adopté. Le projet de loi agricole, le congé de naissance, les réformes constitutionnelles.
Trop de questions, frère.
Calédonie, abrège. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Le droit du sol à Mayotte, la spécificité corse, je vais bientôt m'arrêter.
Ouais.
Fusion de l'audiovisuel public, le retour de l'ORTF. Et pour être clair aussi, deux petites choses. Est-ce que vous voulez supprimer les grandes régions? Vous en avez parlé. Et donc,
il a glissé.
Compétences au département. Et ma deuxième chose, c'était oui, le grand débat
c'est
sur
pas la deuxième.
Non, mais pardon. Non, mais les nouveautés, parce que j'ai l'impression que c'est deux choses assez nouvelles, les grandes régions supprimées.
Vous voyez, la raison pour laquelle il ne faut jamais faire ce, comme ce journaliste, poser un milliard de questions dans une conférence de presse, c'est qu'Emmanuel Macron, il va répondre qu'à une seule des questions. Il va oublier toutes les autres. Il va choisir la question qu'il arrange le plus. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut poser une question très claire. Comme ça, il est obligé d'y répondre.
Laïcité, est-ce que ça peut aboutir à d'autres interdictions, type interdiction de l'abaya qui avait été proclamée?
Des petites techniques que je vous donne. Hein.
Hormis ces deux propositions, il y avait une affiche il y a deux ans de votre parti, c'était 50+. Là, j'ai un peu l'impression que c'est 3 ans de plus.
Alors, je vais essayer de répondre aux questions qui touchent nos compatriotes.
Voilà.
D'abord, je ne vais pas préempter le résultat des élections. On est dans un temps électoral. Donc, je vous invite à l'égard de l'extrême droite et de l'extrême gauche et de leurs alliés, le même souci de clarification. La première réponse, il est tout à fait évident qu'il faudra préparer un budget, de toute façon, avec des réformes qui permettent des économies, comme on l'a fait ces dernières années. Et comme on l'a d'ailleurs fait, des emplois aidés ou autres, parce que c'est comme ça qu'on ne fait pas avec de l'économie paramétrique. C'est pour ça que j'ai clarifié les choses en disant les économies, elles ne se feront pas sur le dos des retraités. Mais la responsabilité budgétaire continuera d'être au cœur d'une majorité gouvernement, si c'est la majorité présidentielle, ce que je souhaite qu'il emporte avec des alliés. Simplement, ça devra faire évidemment l'objet de la discussion entre les forces et toutes celles et ceux qui sortiront de ces élections. Mais la réponse est oui. Sur l'assurance chômage, c'est une réforme qui est importante pour le pays, qui est indispensable. Elle a été assumée, elle a été préparée. La réponse est oui.
Okay.
Après, il y a un temps électoral.
L'assurance chômage va
se reprendre après. Est-ce que ça doit passer par l'Assemblée? Est-ce que ça doit passer par un décret? On le verra le lendemain. Mais sont, de manière très claire, cette réforme.
Ah ben non, c'est pas clair.
Assumée, elle est importante. Il ne faut pas faceiller. Le gouvernement l'assume.
Il a dit oui, mais. Donc en fait, on ne sait pas.
Okay. C'est pas la stabilité fiscale, ce qu'on fait depuis 7 ans. C'est la baisse des impôts. Je le dis parce qu'il y a une majorité depuis 7 ans qui a supprimé la taxe d'habitation, qui a supprimé la redevance audiovisuelle, qui a baissé 30 milliards des impôts pour nos compatriotes et leurs familles et 30 milliards des impôts pour les entreprises. Ce n'est pas la stabilité, hein, c'est la baisse. Et donc ça fera partie de ce qui sort de la majorité. C'est l'objectif de cette majorité-là. Après, si certains, dans la discussion, veulent ouvrir là aussi tel ou tel levier, je ne peux pas le préempter aujourd'hui. Et donc ça doit faire partie d'une discussion avec des partenaires, des responsables. Je vous dis en tout cas ce que la majorité porte en cohérence. Sur les projets en cours, mon souhait, c'est qu'ils puissent être repris si la majorité est confirmée, élargie ou avec d'autres partenaires. Je pense en particulier que pour beaucoup de nos compatriotes, le projet de fin de vie était attendu. Pour beaucoup de nos compatriotes, sur la fin de vie était attendu, le projet agricole était attendu ou congé de naissance. Ces trois que vous avez cités, je pense qu'ils sont importants.
La fusion, France Télé, Radio France.
Le projet de loi constitutionnelle qui a été voté dans les mêmes termes par les deux chambres en matière, sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai décidé de le suspendre.
OK.
Parce qu'on ne peut pas là laisser l'ambiguïté.
Suspendu la Nouvelle-Calédonie.
Suspendre pour donner toute sa force au dialogue sur place et au retour à l'ordre. Enfin, sur vos deux questions. De dernière, parce que vous en avez eu beaucoup. Mon souhait, vous l'avez compris, c'est en effet qu'on puisse redonner une liberté de choix à nos compatriotes, avec un objectif proximité, simplicité et appropriation. Moi, j'ai été frappé ces dernières années, dans beaucoup de régions, on a des compatriotes qui disent « la région est trop grande ». Et ils ont le sentiment de dépossession parce que les centres de décision régionaux, pour la région élue et parfois pour l'État, se sont éloignés. Et ils disent ça n'a pas de cohérence. Alors, je ne suis pas pour les découper de manière arbitraire, parce que ça a été fait de manière arbitraire. Je suis pour qu'on rouvre ce débat de manière libre et qu'on permette cette liberté de discussion, et elle est bonne. Mais qu'on la fasse aussi de manière intelligente, parce qu'on parle souvent du millefeuille. Nos élus locaux font un travail formidable. Nos maires, nos élus d'Interco, nos conseillers départementaux et régionaux.
mais on voit bien qu'on a trop de niveaux, avec des compétences qui s'entrechevêtrent, qui sont plus lisibles. Je pense qu'il faut qu'on ait un bloc communal, et puis qu'il faut qu'on ait un bloc, je dirais, territorial. Et c'est ce qu'il y a derrière ce qu'on appelle le conseiller territorial, qui est de dire qu'on a une même élection.
C'est le retour du conseiller territorial de Nicolas Sarkozy.
Et qui ont à la fois une responsabilité au département, à la région. Et moi, je pense qu'il faut qu'on aille au bout de cette réforme, et qu'on se dise, au fond, il y a un échelon territorial, mais il y en a un seul qui est élu entre le bloc communal.
C'est l'idée de Nicolas Sarkozy, hein, que Nicolas Sarkozy avait voté d'ailleurs, et qu'il n'a pas pu mettre en œuvre, puisque la gauche l'a abrogé quand elle est arrivée au pouvoir avec François Hollande. Le conseil territorial, c'est vous votez pour la même personne qui va siéger à la fois au conseil départemental et au conseil régional.
Et le niveau national. Et puis après, il décide de gérer au niveau de la région ou des départements, mais c'est un choix de gestion, pas l'élection. Par contre, je pense qu'il faut rouvrir, fort de cette simplification, et j'ai entendu le message de beaucoup sur le terrain à cet égard. Sur la laïcité, vous l'avez noté, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur la laïcité avec du volontarisme. On l'a fait sur la Bayal, le ministre à l'époque l'a fait par une circulaire. Donc il n'y a pas besoin de changer la Constitution pour faire des choses concrètes comme ça, et des contrôles, etc. Par contre, on voit bien qu'il y a une situation qui existe où on a de la pression sur des enseignants. On a des maires qui sont sous pression pour les ouvertures d'infrastructures sportives, après telle ou telle heure. On a des présidents de clubs de foot amateurs qui sont sous pression pour jouer. C'est ça qui crée le malaise, avec beaucoup de gens qui sont des républicains,
excusez-moi,
quelle que soit leur sensibilité politique, et qui vivent...
Bonjour le raid de Clément Viktorovitch, bienvenue, on est en train de regarder en différé la conférence de presse d'Emmanuel Macron que Clem a regardée ce matin en direct. Moi ce matin je ne pouvais pas la regarder en direct puisque j'avais la réunion éditoriale de Backseat qui aura lieu demain, donc l'émission de Backseat de demain soir, soyez là, et bienvenue à vous, et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jean Massier, je suis un revenant sur Twitch. Et donc voilà, on en est à peu près aux deux tiers de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, on écoute les questions des journalistes et les réponses du président de la République, assez décalées, hein. c'est assez décalé, on est sur une radicalisation du macronisme, 7 ans après son arrivée au pouvoir, et un Emmanuel Macron qui remue fort des bras et qui espère convaincre, qui a l'air même lui de ne pas croire au fait qu'il aura une majorité de députés qu'ils soutiendront à l'issue des élections, donc voilà. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement, pensez à follow, c'est l'occasion, et bon visionnage.
Ils disent des règles qui ne sont pas claires, et qui sont entre la demande de certains de leurs administrés, ou de familles, ou autres, qui disent « nous on veut des règles claires parce que là on a l'impression que ça ne va plus », et de l'autre, des gens qui disent « mais nous on veut pouvoir vivre dans la diversité ». Il faut clarifier ces règles. Moi je pense que la laïcité... c'est un principe qui protège en respectant les consciences, mais en permettant à chacun de vivre ensemble en République. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on mette ces débats sur la table, pas du tout de manière passionnée, au gré d'une polémique du moment, c'est la pire des façons de faire de prendre une décision, mais en mettant tous les élus qui sont autour de la table de terrain, et en ayant un travail méthodique pour se dire, voilà les quelques points qu'on va changer de bon sens. De bon sens. Je sais que c'est votre obsession sur l'audiovisuel public. Alors,
l'audiovisuel public.
C'est une initiative parlementaire venant du Sénat. Donc là aussi, on attendra la fin des élections. Est-ce que je pense qu'il faut une réforme pour l'audiovisuel public ? La réponse est oui. Est-ce que je pense que c'est le retour à l'ORTF ? La réponse est non. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose entre l'hyperprivatisation de l'audiovisuel à la main d'intérêts hégémoniques et l'ORTF. Il y a l'idée d'avoir un modèle d'audiovisuel public pluraliste, exigeant et peut-être plus efficace. On peut se dire les choses en bon sens sans caricaturer les débats. C'est toujours comme ça que j'ai travaillé. Donc il doit se reprendre dans l'apaisement si une majorité est constituée pour le faire.
Bon, et ben morale de l'histoire, Macron aura répondu à toutes les questions du journaliste. Hein. J'ai été médisant. J'ai été médisant avec le président de la République. Pourtant, j'ai fait mon SNU, on m'a appris qu'il fallait le respecter. Je suis désolé.
Je rebondis simplement pour avoir un petit droit de suite sur la question de Maxence Lambrecq sur l'assurance chômage. Est-ce que cette réforme est pour vous un intangible ou est-ce que vous êtes prêt à revenir dessus ? Et ensuite, vous avez parlé d'une logique de construction avant et après l'élection avec des hommes et femmes de bonne volonté. Est-ce qu'il faut comprendre que vous êtes prêt à ne pas présenter de candidat face à des députés sortants de gauche et de droite que vous jugez compatibles, y compris d'ailleurs unilatéralement.
Alors ça, c'est une bonne question.
Pour envoyer dos à dos un bloc.
Ça, c'est une bonne question. les macronistes. Macron vient de dire dans cette conférence de presse qu'il ambitionnait de faire une alliance nouvelle avec des députés venant du bloc républicain, comme il l'appelle, donc des gens venus des Républicains et du Parti Socialiste. Question, est-ce que le parti présidentiel va présenter des candidats face aux députés sortants socialistes et républicains?
D'extrême gauche et d'extrême droite, mais quid des circonscriptions où ni vos candidats ni vos alliés seront qualifiés? Est-ce que vous envisagez de donner une consigne de vote dans ce cas de figure? Merci beaucoup.
Je ne vais pas rentrer dans les logiques d'appareil, de consigne de vote, ce n'est pas mon rôle ici.
C'est dommage. Je
suis responsable de majorité de le faire. Je vais simplement répondre très directement sur l'assurance chômage, parce que c'est une question qui m'est posée. Elle revient aussi sur la méthode. Je pense que cette réforme est bonne, et donc je l'assume. Mais, puisque vous avez utilisé un mot précis d'intangible, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un intangible, sinon on ne peut pas dire qu'on va négocier des choses.
C'est le rôle de Attal, du coup.
Et donc je pense que l'idée de dire qu'on doit continuer de lutter contre l'inactivité, qu'on doit avoir une société de plein emploi, c'est une bonne chose, et je l'assume. Je pense que cette réforme, elle a été bien préparée par le gouvernement, je l'assume. Je pense que le gouvernement a raison de l'assumer en campagne. Après, je ne veux pas préempter le jour d'après et les discussions qui vont se faire. Et donc, si certains veulent l'améliorer, la changer, je ne peux pas vous dire, je crois dans la co-construction et vous dire c'est intangible. Je ne serais pas cohérent. Mais je l'assume, je pense qu'elle est bonne et je pense qu'il faut continuer sur ce chemin et ce cadre.
Avec une négociation
après,
possible.
Ce okay. sera à la fois aux forces de la majorité dans la construction du programme et le jour d'après à construire les modalités. Voilà. Sur le reste, je ne vais pas rentrer dans la cuisine électorale. Je dis ça.
Elle est importante, la cuisine, là.
Il y a d'abord une clarification qui est attendue par, au fond, celles et ceux qui vont se présenter à des élections législatives. Je le dis en toute sincérité, vraiment avec beaucoup de respect et de bienveillance. J'en connais beaucoup. Il y a beaucoup d'élus. Regardez d'ailleurs les LR. Je veux saluer le choix responsable parce que je me mets à la place des élus LR ou des militants ces 24 dernières heures, ce qu'ils ont vécu. Ils ont un président qui a fait un pacte du diable. Enfin, le président du Sénat, la totalité des sénateurs LR du Sénat et la quasi-totalité, à l'exception peut-être de 2-3 députés à l'Assemblée LR, ont tous dit « pas nous ». Ils ont été clairs. Donc, ils ne se retrouvent pas dans la ligne de leur parti. Donc, eux-mêmes, ils vont avoir un élément de clarification à faire.
Donc ?
Mais on ne peut pas habiter à tous les étages. Et donc, ils vont avoir à clarifier. Donc, s'ils disent « on refuse », ils auront donc un candidat du Rassemblement national en face d'eux. Ben là, c'est exactement ce que les forces de la majorité devront faire avec ces élus. Ils devront leur dire « on ne vous demande pas de venir dans la majorité, on a eu des accords, mais au fond, mettons-nous d'accord sur quelques idées clés, et à ce moment-là, il faudra assumer des choix ». Mais il faudra que ces derniers soit disent bah, « les LR, c'est plus les gens qui suivent le président Ciotti et ses alliés », ou ils devront eux-mêmes prendre une initiative politique pour dire « voilà ce que c'est notre offre ». Tout le monde doit...
Emmanuel Macron ouvre la voie à ce que... Merci pour le raid. Emmanuel Macron ouvre la voie à ce que des députés... Enfin, à ce qu'il n'y ait pas de candidats de la majorité présidentielle face aux députés LR sortants qui ont dit non au RN. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu te retrouves, si tu es un député LR qui est élu dans ta circonscription face à un candidat macroniste, tu as donc battu un candidat macroniste dans ta circonscription, c'est pas pour ensuite t'allier avec Macron. Puisque Macron t'a mis un opposant face à toi. Elle est là, la logique, en fait. Les députés LR d'aujourd'hui ne font pas d'alliance avec Macron, notamment parce qu'ils ont tous battu des candidats macronistes dans leur circonscription. Donc, Macron, là, qui parle de clarté depuis le début de cette conférence de presse, ça, c'est une clarté. Puisque tu dis vouloir travailler avec les Républicains qui ont dit non au RN, eh ben, sois clair et ne mets pas de candidat face à eux. Et est-ce que tu feras pareil avec le Parti Socialiste? C'est une autre question.
Il faut être clair dans cette affaire. Mais s'ils ont quelqu'un du Rassemblement national et qui sont dans la clarté de leur choix qu'ils ont exprimé, la majorité devra trouver ce chemin. De l'autre côté, Moi, je connais des députés socialistes, sociodémocrates qui se sont exprimés. Je vois M. Gage ou d'autres. Bah, ils n'ont rien à faire avec LFI. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Je me mets à leur place. Et donc, c'est le même dialogue qui doit être engagé avec peut-être des gens du Parti communiste, des Verts, du Parti socialiste, qui ne peuvent pas se retrouver dans cette alliance qui n'est même pas baroque, qui est indécente.
Et le Front populaire
que... Moi, j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Et donc, il y a des gens qui ont assumé...
C'est pas 300, c'est moins.
Assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme.
Non, c'est pas vrai.
Ça, le Front populaire. Ça a un sens dans notre histoire, ça a un rôle, ça a une dignité, c'est pas ça. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de parlementaires sortants, de gens de bonne foi qui veulent accéder aux responsabilités, et donc en effet, s'ils sont clairs en disant « nous ne sommes pas dans ce bloc parce qu'il n'a pas de sens », alors la majorité devra construire avec eux. Voilà. Mais vous voyez, sur une base qui est claire, c'est pour
donc
ça.
Donc la condition que met Emmanuel Macron à soutenir hypothétiquement des députés PS ou des députés LR dans leur circo, c'est à ce qu'ils disent clairement leur volonté de faire alliance avec Emmanuel Macron. Ce qui est pas con, il a raison de mettre cette condition. C'est pas gratuit.
C'est ça que j'ai voulu ici, et mon rôle s'arrête là, de dire au fond quels sont les axes et la méthode. C'est quand les axes et la méthode sont clairs, nos compatriotes ne sont pas trompés. Parce que le but, c'est de pouvoir gouverner. Ce qui est malsain dans ce qui est en train de se passer, mais c'est un temps de clarification, c'est que d'abord on voit que les masques tombent, mais ça doit être aussi un moment de vérité, parce qu'on ne peut pas faire des alliances de boutique pour aller à l'élection en étant en désaccord sur tout.
Valérie Leroux de l'agence France Presse. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Mais le Rassemblement national, dont vous avez fait votre combat numéro un depuis 7 ans, est déjà de facto potentiellement aux portes du pouvoir. Il peut remporter les législatives le 7 juillet au soir. Alors pouvez-vous nous dire où vous, personnellement, avez échoué ces 7 dernières années pour qu'on en arrive là, si je peux le formuler comme cela? Et nommerez-vous Jordan Bardella Premier ministre s'il obtient une majorité pour gouverner soir du 7 juillet. Alors, je sais que vous n'aimez pas répondre à des questions de science-fiction, mais là, de politique fiction plutôt, mais là, je crois qu'on n'est plus tout à fait dans la fiction.
Bah, ça dépend de nos compatriotes tout de même. Hein. Ça dépend de nos compatriotes tout de même, cette affaire.
Oui, c'est une élection.
Écoutez, je regarde quand même l'Europe dans laquelle nous vivons, plus généralement l'Occident. Les extrêmes et les démagogies augmentent depuis beaucoup d'années et montent. Alors, je veux bien avoir toutes les responsabilités, mais enfin, en 2016-2017, il y a eu le Brexit, l'élection de président Trump. Je suis heureux que les Françaises et les Français aient fait ce choix-là dans ce moment-là. Mais regardez l'AFD monter en Allemagne, regardez l'extrême droite qui arrive aux responsabilités d'une coalition aux Pays-Bas, regardez... la montée qu'il y a dans beaucoup de pays d'Europe, les responsabilités prises aussi en Italie ou ailleurs, c'est un fait européen. Il est lié à quoi? À une inquiétude, des peurs profondes de nos compatriotes. Et je vais être clair avec vous. Si je pensais que j'avais tout bien fait, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, je n'aurais pas fait de dissolution, et tout irait bien. Donc oui, j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité dans le fait que, sans doute, je n'ai pas apporté de réponse assez rapide et radicale à des inquiétudes légitimes qu'avaient nos compatriotes. Au malaise qui existe dans la ruralité qu'on a évoqué, au sentiment de perte de contrôle, de dépossession, aux peurs qui existent, au sentiment aussi de déclassement qu'il y a dans certains de nos quartiers, ce qui fait que le risque, c'est d'aller vers les deux extrêmes. Après, je vois aussi des sociétés et des sociétés médiatiques qui fonctionnent très différemment. Ça, je ne suis pas tout seul responsable. Mais regardez ce qui se passe.
Il y a Bolloré aussi qui a une responsabilité.
Vous étiez d'ailleurs avec moi. Je le crois profondément. Pourquoi les extrêmes montent partout? Pourquoi on a 50% aux extrêmes? D'abord parce que dès qu'il y a un fait divers, il est monté en épingle partout. J'étais à Oradour il y a 2 jours. Je suis maire d'Oradour, mais il y a des choses dramatiques qui se passent chez vous, il y a un gros problème d'immigration, d'insécurité. Le maire d'Oradour me dit non. Mais quand les gens sont tous les jours devant la télé ou les réseaux sociaux et voient que c'est orange mécanique à tous les bords, ben ils disent ça va m'arriver. C'est ça aussi. Ah, s'ajoutent en cela les problèmes de pouvoir d'achat. Et donc je dis, si on n'a pas aussi une forme d'éthique démocratique du débat, ça ne peut pas marcher. Et donc s'il y a une prime toujours à l'émotion négative, à la surréaction, à l'épisode du moment, je vous le dis, ce qui triomphe, c'est celui qui porte le mieux l'émotion négative. Mais ça ne fait pas un axe de gouvernement. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut l'endiguer par la qualité de notre débat démocratique, et c'est pour ça que je pense que vous avez, les responsables politiques ont dans les 18 jours qui viennent, et l'entre-deux-tours, une responsabilité importante dans la clarification. C'est de demander clairement aux gens qu'est-ce que vous allez faire, comment, avec quel argent, avec qui, sur quelle clarté. Et je pense que c'est ça, plutôt que savoir est-ce qu'il se marie avec Tartemolle ou Mâche Pro, vous voyez.
Hein ?
C'est plus utile pour le pays.
Pardon, je ne l'ai pas.
Il faudra gouverner. Ensuite, vous l'avez très bien dit vous-même, j'ai jamais fait de politique fiction. Mais surtout, je n'ai pas l'esprit de défaite. Et moi, ce qui me frappe, quand j'écoute le bruit ambiant du système, toujours, et c'est pour ça que j'ai voulu ce moment de clarification-là, c'est l'esprit de défaite. C'est que les gens disent « c'est terrible, mais ça va arriver ». Mais pourquoi ? Si les gens ne mènent pas leurs idées avec force, vigueur, clarté, oui, les extrêmes peuvent prendre le pouvoir. Mais il n'y a aucune fatalité. Moi, j'ai confiance dans nos compatriotes. J'ai confiance dans nos compatriotes. Je pense que les Françaises et les Français sont intelligents, voient ce qui est cohérent, ce qui ne l'est pas, savent faire la différence entre exprimer une colère et avoir un projet de sérieux, ont un idéal. Donc je ne crois pas du tout que le pire puisse advenir. Vous voyez, je suis un indécrottable optimiste.
Bonjour, monsieur. Il parle de l'esprit de défaite, c'est intéressant. Hein. Est-ce que ça pue la défaite, encore une fois, sa conférence de presse ?
Votre décision de dissoudre l'Assemblée nationale a été mal comprise. La guerre est toujours sur notre sol en Europe. Cette décision n'affaiblit-elle pas l'Europe et l'Ukraine face à la Russie et au pire moment ?
Écoutez, encore une fois, moi je crois dans la démocratie. Et je pense que nous ne pouvons pas en...
Là où cette journaliste a raison, c'est qu'une arrivée de Bardella au pouvoir, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Très mauvaise.
L'Europe, dire on voudrait gouverner malgré les peuples. Quand vous avez 50% des suffrages qui se sont exprimés, qui vont aux deux extrêmes, qui portent cette vision que vous décrivez, qui n'est pas la mienne sur l'Ukraine et autres, il est légitime de demander un moment de clarification. Parce que sinon, quelle était moi ma légitimité à continuer à dire le gouvernement va s'engager sur telle et telle voie ? Nous sommes tous des démocrates, donc on doit respecter le choix de nos peuples. Et là aussi, ce qui est frappant, c'est que tout le monde fait en Europe comme si le pire allait advenir. La réaction de beaucoup de marchés, de dirigeants, c'est la peur de voir le Rassemblement national. Mais nous, en France, notre responsabilité, c'est qu'il n'y arrive pas. Et donc, c'est la responsabilité de tous les dirigeants politiques des autres. C'est là où il faut un sursaut, une réaction. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est attention, parce qu'à l'extérieur, ça s'affiche quand même la trouille. Parce que la politique qui est menée actuellement ne sera sans doute plus possible si vous allez vers ce choix. Il faut être clair. Parce qu'en quelque sorte, le débat que nous avons, il oscille de la déréalisation à la peur. Mais il n'y a pas au milieu le chemin d'une éthique de la responsabilité. On fait soit comme si de rien n'était, et le Front National est là, le Rassemblement National est là, et monte, mais tout va bien, on continue, ou de l'autre côté, c'est terrible, ils vont tout prendre. Non, il faut combattre les idées, convaincre les gens, et y aller. Mais vous avez raison, le Rassemblement National n'a pas eu la même politique que celle que nous suivons sur l'Ukraine. Vous avez raison, le Rassemblement National a toujours été ambigu à l'égard de la Russie, et que je pense que c'est un problème pour l'Europe et pour la France. Après, comme tout dirigeant européen, je crois dans la démocratie et le retour au peuple. On ne va pas diriger nos pays en faisant la dissolution des peuples. C'est quand j'entends beaucoup de gens, c'est ce qu'ils voudraient. Non. On va juste essayer, honnêtement, sincèrement, de convaincre nos compatriotes pour pouvoir avoir des majorités parlementaires et gouvernementales pour faire.
C'est dur à croire, comme scénario, c'est dur à croire.
Bon choix. Si le jour d'après, les extrêmes devaient gagner, je pense que la France en sortirait affaiblie. Mais si le jour d'après, une majorité claire de gouvernement en sortait, la France serait renforcée, et nettement par rapport à dimanche soir.
Bonjour Monsieur le Président, Rémi Buzyn pour Brut.
Vas-y mon Rémi.
Les jeunes électeurs français ont massivement rejeté la liste de la majorité. Chez les 18-24 ans, par exemple, votre candidate a fait seulement 5%, rapporté à l'abstention, votre score est même à 2%. Ces questions, donc, pourquoi les jeunes français ne misent pas sur vous pour leur avenir? Comment expliquez-vous cette défiance?
Rémi Le Gaute.
Je ne suis sans doute pas le meilleur pour expliquer ces choses-là. Je pense que d'abord, il y a le fait que quand on exprime une colère, on l'exprime toujours vis-à-vis de ceux qui sont en responsabilité. Ensuite, ce qui me préoccupe plus, c'est la part importante de la jeunesse qui est allée à l'extrême droite, ce qui est quand même un fait nouveau par rapport aux dernières élections. Et donc, je pense que c'est notre responsabilité plutôt d'aller reconquérir en effet cette jeunesse en montrant la force de notre projet. D'abord, sa crédibilité en matière égalitaire, parce que j'ai vu aussi que dans cette jeunesse, y compris dans vos colonnes, si je puis dire, en tout cas dans les réactions qu'il y avait, ce qui était mesuré chez vous, il y avait quand même un vrai sujet sur la sécurité, l'immigration qui ressortait. Donc c'est la réponse que j'évoquais tout à l'heure. Il faut qu'on montre qu'on sait le faire dans le cadre des valeurs de la République. Et après, je pense que sur les questions d'égalité femmes-hommes, d'écologie, on doit apporter une réponse plus forte, crédible, comme celle que j'évoquais.
Avec Darmanin au gouvernement ?
Il y avait le pouvoir d'achat aussi qui revenait beaucoup.
Et le pouvoir d'achat ?
La précarité étudiante.
Tout ça, je l'ai évoqué, c'est ce qui sortira dans la campagne. Après, je fais le même constat que vous. Est-ce que je m'y résous ? Non. Et donc, je pense que ça va être le défi, justement, de ce bloc progressiste, démocratique, républicain, d'aller convaincre la jeunesse que, pour elle, le projet qui est porté et les cinq axes, au fond, que je viens de défendre, sont bons pour son avenir. Et je crois très sincèrement que quand on est jeune aujourd'hui, c'est assez paradoxal de défendre, par exemple, un projet d'extrême droite qui est le reniement écologique et le reniement de l'aventure européenne. Je ne vois pas comment on construit un avenir pour la jeunesse en reniant ces deux impératifs pour notre avenir. Et à l'inverse, je ne vois pas comment on construit un avenir pour la jeunesse avec une politique de sortie du nucléaire, de sortie des réformes économiques et sociales qui appauvrissent le pays, comme le propose l'extrême gauche. Donc je pense qu'il faut les convaincre qu'on a un projet d'avenir pour eux. Voilà.
Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président.
Vous êtes
ici. Mohamed Ouassi, c'est à vous, au fond. Voilà.
Juste au fond, mais...
Ah, voilà. Là, voilà. Monsieur le Président, je prolonge une question qui vous a été posée. Le RN a déjà son Premier ministre supplétif. Est-ce que vous l'avez aussi? Et d'ailleurs, est-ce que vous reconduirez Gabriel Attal, qui est présent aujourd'hui, en cas de victoire? Et à l'inverse, en cas de victoire du Rassemblement national, avec une majorité relative, est-ce que vous nommerez le soir du 7 juillet Jordan Bardella? Et par conséquent, si le RN accède à Matignon, est-ce que vous pensez que vous allez être empêché pour poursuivre votre politique de soutien à l'Ukraine? Allez-vous vous résoudre à gérer uniquement l'international et des commémorations à partir du 8 juillet en cas de défaite?
Sur votre dernière question, d'abord, la Constitution est claire sur ce sujet, et je vous renvoie à celle-ci, ne faisant pas moi-même de politique fiction. Ensuite, moi, je pense que c'est bon que chaque projet aujourd'hui soit porté. Le Rassemblement national et ses alliés, Jordan Bardella, la majorité présidentielle, c'est le Premier ministre. C'est pour ça que j'ai décidé, évidemment, je lui ai dit le soir même, de lui faire confiance pour continuer de mener à la fois la conduite du gouvernement, et il le fera avec le collectif gouvernemental et les chefs de parti. Je vous invite à vous poser la question de savoir qui est le candidat du bloc d'extrême-gauche et associé.
Bonne question.
C'est Monsieur Mélenchon, je pense.
Non, non.
Puisque l'accord qui a été signé, c'est 300 circonscriptions LFI. Je le dis juste pour que tous nos compatriotes,
c'est pas sûr,
social-démocrates, verts ou communistes, qui vont dans ce qu'on appelle, je ne me résous pas à appeler ça le nouveau Front populaire, cette alliance à l'extrême droite, disent qu'ils vont soutenir un Premier ministre qui devait gagner, qui serait Jean-Luc Mélenchon.
C'était le cas en 2022.
Il faut être clair sur qui dirige. On est clair, l'extrême droite est claire. Ensuite, le jour...
Mais là, il a raison, hein. La gauche doit être claire.
Elle est tout autant. Il y a une chambre qui sortira. Et en fonction des forces politiques et des équilibres de sa chambre, de cette chambre, le président de la République aura à choisir un Premier ministre. Ce n'est jamais les formations politiques qui le dictent au président de la République, ce sont les équilibres qui...
Je reviens.
Et ça, ce sera le jour d'après que j'aurai à prendre cette décision. Je prends chaque jour la décision qui est à ce jour-là. Voilà.
Bonjour, Monsieur le Président. C'est Lavo Griot pour TF1 LCI. Beaucoup de Français sont aujourd'hui lassés de faire barrage contre le Rassemblement national après votre réélection en 2022. Ceux qui ont voté pour vous sans approuver votre projet se sont sentis parfois trahis. Je prends pour exemple la réforme des retraites. Que leur répondez-vous aujourd'hui? Quelles garanties ont-ils d'être entendus après ce scrutin? Autrement dit, concrètement, quelles concessions êtes-vous prêts à faire à droite comme à gauche pour ceux qui vous aideraient à battre l'extrême droite? Merci beaucoup.
D'abord, j'ai essayé depuis tout à l'heure de ne pas réduire le débat à cela. Je crois très profondément que si on regarde le paysage qui est en train de se composer politiquement, compte tenu du caractère insolite et incohérent de l'alliance qui est en train de se faire à l'extrême gauche et à la gauche, d'évidence, il n'y a pas de schéma de gouvernement. Bon. La question, c'est qui gouverne demain le pays, l'extrême droite et quelques associés, ou le bloc démocratique, progressiste et républicain. C'est ça la question fondamentale. Ce n'est pas faire barrage, c'est qui gouverne. Ensuite, vous avez tout à fait raison de traduire ce que certains élus ont pu ressentir, certains élus, pardon, ce que certains de nos compatriotes ont pu ressentir, qui est un peu la règle entre les deux tours d'une présidentielle. On vote ainsi. La méthode que j'ai proposée aujourd'hui est radicalement nouvelle. Et c'est aussi ça ce qui est sur la table. J'ai proposé une vision claire, partagée, au fond un idéal, autour de cinq axes. J'ai pu détailler quelques points, mais je ne suis pas rentré dans le détail, ce n'est pas un programme fermé. Et ensuite, je dis à tous ceux qui veulent rejoindre ce bloc, avant le premier tour ou après, il y a des discussions possibles. Donc ces discussions, il va falloir les formaliser. Et ça veut dire que oui, il y aura des compromis à bâtir. Ce n'est pas des concessions, parce que c'est pour agir. Donc ce seront des compromis. Et c'est là où je disais tout à l'heure à votre collègue, il y a des choses auxquelles on croit, mais si pour bâtir un compromis, il faut pouvoir enrichir, amoder, il faudra le faire. Et c'est ça la grande différence. Parce que c'est aussi une partie de ce qui a été exprimé, je crois, dans les désaccords de dimanche. Ensuite, je pense qu'il faut aussi que toutes les forces qui se réuniront soient au clair sur la lecture du vote de dimanche, la nécessité de réponse au pouvoir d'achat, la nécessité de réponse à l'insécurité et l'immigration, la colère du monde rural, le sentiment de déclassement qu'il y a dans les quartiers, tout ça. Si on se met d'accord sur le diagnostic et sur la vision, ben on doit bâtir ensuite des compromis efficaces pour gouverner. C'est ça ce qui est très différent. Parce qu'en 2022, l'élection présidentielle, et c'est notre système institutionnel qui veut ça, est en soi un élément de clarification. Les élections législatives qui vont derrière se font sur ce même programme. Et la majorité relative, je le disais, nous a permis d'agir. Mais c'est vrai avec des instruments institutionnels comme l'article 49.3 ou plusieurs autres, qui sont totalement légitimes, mais qui ne permettent pas ces compromis. Là, la méthode est différente, puisque ce qui est proposé, c'est une vision des axes, une volonté de convaincre. Je ne sais pas pourquoi cette lumière s'allume soudainement, et si agressivement.
Il y a un bug dans la salle, la régie.
Et de rassembler. Donc il faudra des compromis d'action pour le pays, avec des sociodémocrates, des écologistes, des gaullistes, des radicaux, des responsables politiques qui veulent s'adjoindre. Ça ne peut pas être, c'est à prendre ou à laisser.
Monsieur le Président, c'est la dernière question, c'est donc la fin de notre conférence de presse.
Je peux même en prendre deux, s'il y en a encore deux. Allez, deux dernières questions.
Allez, deux dernières. Et après, on débriefera tout ça.
Je n'ai pas de micro, moi.
Bonjour. C'est une question au nom des chaînes parlementaires ALCP et Public Sénat. Le fonctionnement de la Ve République fonctionne avec un système de balancier d'alternance. Est-ce que vous n'avez pas cassé ce modèle en choisissant l'ennemi, votre adversaire, le Rassemblement National, et donc cassé ce balancier entre la gauche et la droite qui était historiquement celui de la construction de la Ve République?
Je ne suis pas sûr que...
Très bonne question. Pourquoi vous parlez que de l'extrême droite, vous ne parlez jamais de la gauche?
le général de Gaulle se soit totalement retrouvé dans vos propos, pour être honnête. Non, je crois
pas. Si. Bah si.
Je pense que les partis se retrouvaient dans ce que vous dites. La Ve République, elle a été conçue pour sortir du logiciel des partis qui prenaient le pays en capture. Je vous invite à lire le discours de Bayeux et ce qui s'en est suivi. Le
discours de Bayeux, oui. Non.
C'est aussi pour ça que j'ai toujours cru dans le dépassement, le rassemblement. Et je crois qu'on continue de le faire. Simplement, la méthode est différente parce que les temps sont différents. Et ils sont d'une gravité qui implique de changer les choses. Allez-y.
Monsieur... C'est quoi le discours de Bayeux ? Le discours de Bayeux, c'est un discours qui a été prononcé en 1946, de mémoire, par le général de Gaulle, dans lequel il donne ses orientations, enfin ce qu'il préférait être les institutions. Et en fait, il est critique de la 4ème République. Et c'est sur la base de ce discours, en fait, que sera conçue la 5ème République. Voilà.
Président Camille Wiegand-Lequat pour le Nouvel Obs. En cas de duel qui opposerait le RN et le Front Populaire, est-ce que vous appelleriez à voter contre l'extrême droite ou est-ce que vous pratiqueriez le ni-ni ? Et si vous mettez un signe égal entre les deux, extrême droite et extrême gauche, comment demander aux électeurs de gauche de continuer à faire barrage ?
Très bonne question. Très, très bonne question.
Aujourd'hui, répondre aux questions qui se poseront le soir du premier tour et qui seront celles des responsables de la majorité. Mais moi, je vous invite à vous poser et à poser à vos lecteurs une question préliminaire de clarification. C'est comment les électeurs qui ont par exemple suivi M. Glucksmann aux élections européennes peuvent-ils soutenir une alliance qui donne 300 circonscriptions à la France insoumise ? Comment les électeurs qui ont soutenu M. Glucksmann,
ben là, il a raison, il tape là où ça fait mal.
Vraiment respectable, digne, avec beaucoup d'idées fortes, peuvent-ils soutenir une alliance qui, par définition, si elle devait l'emporter, proposerait Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre ?
Ça, c'est pas sûr. Et il pourrait retourner le truc en disant comment des électeurs qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon peuvent-ils voter pour des candidats proches de Raphaël Glucksmann dans les circonscriptions où c'est le PS qui présente un candidat ?
Cette clarification, elle est d'abord là. Elle est d'abord là. C'est celle-là, la vraie clarification de fond idéologique, individuelle et profonde pour tous ces responsables politiques. C'est qu'ils se sont battus pendant des mois en expliquant aux Français « On n'est pas pareil. Nous, on est pour l'Ukraine. Eux, ils sont pour la Russie. On n'est pas pareil. Nous, on est pour une politique exigeante dans le Proche-Orient. Eux, ils sont totalement pour... Ils ont été jusqu'à justifier le pire. Avoir une politique d'antisémitisme. Nous, on n'est pas pareil. On croit dans le respect républicain. Le calme des débats parlementaires. Les autres sont devenus antiparlementaristes. Je ne reviens pas sur le nucléaire, sur la vie économique, où ils ne pensent pas la même chose. Pour moi, la clarification qui s'impose entre maintenant et la fin de semaine, parce qu'il y a chaque temps, c'est que tous les responsables politiques, sociodémocrates et écologistes se posent la question de savoir s'ils veulent une alliance avec des gens qu'ils ont combattus et avec lesquels ils sont en profond désaccord. Et je vais même aller un cran plus loin. Je pense que la responsabilité...
Non, mais moi aussi, je vais aller un cran plus loin. Puisque sa logique, c'est de dire, dis donc, c'est pas très respectueux pour les électeurs d'avoir des accords d'appareil et de partis politiques avec des gens qu'ils ont combattus. Pourquoi est-ce qu'il propose une alliance avec les députés PS et les députés LR qu'il a combattus ? Ben voilà, pareil, puisqu'on est dans le mariage de la carpe et du lapin. S'il faut dénoncer les hypocrisies d'alliance, ok, faisons-le. Dénonçons l'hypocrisie des pro-Glucksmann qui font alliance avec les pro-Mélenchon et vice-versa. Dénonçons les Républicains avec Éric Ciotti avec le Rassemblement National. Mais dénonçons aussi les macronistes qui se proposent de faire des alliances avec les socialistes et les Républicains.
Stabilité des responsables de la majorité. Si, ou des députés sortants, ou des responsables de cette gauche social-démocrate et écologiste était de dire on ne veut pas de cette alliance impossible, ce serait alors, oui, dès le premier tour, de bâtir avec eux quelque chose et de ne pas mettre de candidat face à eux. Mais ce sujet-là, je pense qu'il y a de l'indignité des deux côtés. Si vous voulez, oui, quand vous avez à l'extrême droite des gens qui disent il y a des vrais Français et des faux Français, et quand vous avez à l'extrême gauche des gens qui ont des propos antisémites et qui ne le condamnent pas au sein de l'antiparlementarisme, je dis...
Il dénonce l'antisémitisme de LFI, il n'a pas un mot pour le racisme du Rassemblement National. Pas un mot. Et vraiment, il choisit ses cibles.
Il dit juste que vous avez des responsables des deux côtés qui sortent de l'adhésion à la République et de ses valeurs. Oui, Je vous le dis avec grande clarté. C'est égal ne veut rien dire. Mais ce ne sont pas des gens qui sont républicains. Et donc, je ne vois pas comment un radical de gauche, un social-démocrate, un socialiste, un écologiste et même un communiste peut continuer à faire cause commune avec quelqu'un qui, par ses positions, et qui plus est un dirigeant qui, par ses positions, a montré qu'il n'était plus dans les valeurs de la République. Je vous le dis en toute sincérité. Et ce moment de clarification, c'est celui d'aujourd'hui. Et il s'oppose pour les responsables politiques d'ici dimanche, avec force. Et si les responsables politiques ont le courage de faire ce choix, la majorité doit avoir alors le courage, dans les circonscriptions concernées, d'y répondre en ne présentant pas de candidat. Je le dis, je pense que c'est ça la clé. Mais si le choix est clair. Ensuite, les électeurs auront un choix clair à avoir. Mais c'est ça.
Bonjour, Monsieur le Président. Michel Rose de Reuters. Pour beaucoup de nos concitoyens, la dernière cohabitation est très lointaine. On sait que c'est de la politique fiction, que rien n'est gagné, mais vous devrez quand même expliquer comment, quelle est votre conception de la cohabitation et du rôle du président sous une cohabitation. Que feriez-vous si vous aviez un ministre des Affaires étrangères RN ? Que feriez-vous si vous aviez un ministre des Armées RN ? Que feriez-vous si un ministre de l'Intérieur RN devait gérer les Jeux Olympiques le mois prochain ? Merci.
Écoutez, la Constitution est claire et je vais pas, encore une fois, c'est incroyable cette affaire. C'est de se dire... Vous ne voyez que le jeu politique et la contemplation du désastre. Moi, ce qui m'importe, c'est dans le moment que nous vivons, notre responsabilité, c'est de dire quelle est la conséquence pour nos compatriotes. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est de dire si le Rassemblement national venait aux responsabilités, alors que deviendraient vos retraites ? Ils ne sauraient pas les financer, donc elles vont baisser. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, que deviendraient vos prêts immobiliers ? Ils vont flamber parce que les taux flamberont. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, là, vous n'auriez pas de problème à vous poser sur l'ORTF ou l'audiovisuel public parce qu'ils veulent le massacrer. Si le Rassemblement
privatiser, en l'occurrence,
venait aux responsabilités, qu'est-ce qui se passerait pour nos valeurs, pour nos compatriotes binationaux, d'origines diverses, vivant dans les quartiers ? Et la réponse à cela n'est pas le communautarisme, elle est à la République et son universalisme. C'est ça la question d'aujourd'hui. C'est pas de savoir comment ça va se passer quand tout capitulera. Non à l'esprit de défaite. Oui au réveil, au sursaut républicain. Nos compatriotes sont des républicains, des femmes et des hommes de bonne volonté. La France s'est toujours tenue ainsi. Et l'esprit de défaite, il a toujours été dans les élites. Toujours. Et il vient des élites. Je vous le dis. Et donc, en faisant ce choix dimanche dernier, j'ai fait le choix de faire confiance, confiance dans nos compatriotes, dans leur amour de la République, de la clarté, du débat politique, plutôt que dans les combines et dans l'esprit de démission et de défaite. Parce que moi, je ne l'ai pas. Voilà la responsabilité qui revient à la majorité.
C'est bizarre les applaudissements. Ah, mais non, c'est les membres du gouvernement. Non, c'est pas les journalistes qui applaudissent, hein, je vous rassure.
Donc, ce sera à la majorité.
C'est les membres du gouvernement qui sont là.
Candidats et à tous ceux qui veulent la rejoindre, se rassembler avant comme après. De bâtir. Je suis confiant dans la France, son avenir. Il ne s'écrit pas dans le rétrécissement, la trahison de ses valeurs, de sa devise ou de ses principes. Il se construit avec exigence, en étant lucide sur la défaite de dimanche dernier, en étant lucide sur la colère qui est exprimée par nos compatriotes, en étant lucide sur le fait que il faudra de toute façon gouverner différemment. Avec respect, avec calme, avec dignité au service du pays. C'est ce en quoi je crois. Et je crois que ce chemin est non seulement possible, il est souhaitable et il est à conquérir. Je vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse qu'on a regardée en différé d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui se casse pour aller déjeuner avec Ursula von der Leyen. Elle était diffusée à partir de 11h ce matin, cette conférence de presse. On vient de la regarder en replay parce que je ne pouvais pas être là à 11h ce matin. Que dire ? Un président de la République qui se veut conquérant, qui se dirige vers une élection législative dans laquelle il espère avoir une majorité de députés. Personne n'est leurré dans la salle, les journalistes, les observateurs, personne n'est leurré. Quand on voit les résultats des élections législatives, quand on voit le rejet que suscite la personne d'Emmanuel Macron, on se doute que ceux qui vont gagner la mise à l'occasion de ces élections législatives, ça va surtout être le Rassemblement National et le Front Populaire, donc l'union des partis de la gauche. C'est certainement pas la majorité qui va sortir renforcée. On est dans des eaux troubles, hein. On ne sait pas si le Rassemblement National va remporter ces élections législatives, s'ils auront une majorité absolue de députés, ou si ce sera le Front Populaire qui y arrivera. En tout cas, il y a très très peu de chances que ce soit les macronistes. Pendant ce temps-là, on a appris l'exclusion du parti Les Républicains d'Éric Ciotti, qui était ce matin encore le président du parti Les Républicains. Éric Ciotti qui a hier à 13h proposé une alliance avec le Rassemblement National, ce qui n'a pas été au goût du bureau politique du parti qui l'a exclu. Alors je ne sais pas, je connais pas les statuts du parti Les Républicains, je ne sais pas si un bureau politique a les moyens d'exclure un président de parti. Normalement le président il est élu par les adhérents, donc je suis pas sûr que le bureau politique puisse vraiment se permettre une exclusion. Mais bon, au point où on en est, en tout cas ils ont voulu envoyer un signal fort d'exclusion. Peut-être que Ciotti va contester en justice et tout, je n'en sais rien, on verra bien. On verra bien. Ça pose en tout cas la question de qui va présenter des candidats dans quelles circonscriptions entre les Républicains, le Rassemblement National et les Macronistes. Vous avez bien vu que ça faisait partie des questions que Emmanuel Macron n'a pas tranché dans cette conférence de presse. Il a renvoyé la balle à Gabriel Attal qui, en tant que chef de la majorité, devra décider. Il reviendra donc à Gabriel Attal de décider s'il présente des candidats dans les circonscriptions où se présentent des socialistes et des républicains, puisqu'Emmanuel Macron a l'air de vouloir tendre la main à ces deux formations politiques. Donc voilà, Emmanuel Macron qui a voulu faire une conférence de presse de la clarté en voulant justifier au maximum son recours à la dissolution suite à l'annonce des résultats. Il a justifié en disant que si on fait le cumul des votes à l'extrême droite plus la France insoumise, on est à plus de 50% des extrêmes. Emmanuel Macron, dans son logiciel, renvoie dos à dos les extrêmes. Merci Samuel, merci Sam. Pour ton raid, bienvenue les viewers de chez Sam. On est en train de débriefer la conférence de presse d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a donc donné une conférence de presse d'une heure et demie ce matin. Merci Jean, on t'aime. Ah, vous faites super plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Merci Sam, merci du fond du cœur. Bah, bienvenue à vous sur la chaîne, on est en train de discuter politique. N'hésitez pas à follow la chaîne, c'est l'occasion. Et donc j'étais en train de dire que se pose encore la question de savoir quelles vont être les stratégies des appareils politiques pour les élections législatives. Qui vont-ils présenter dans les circonscriptions? Est-ce qu'ils vont se gêner les uns les autres? On sait que la gauche est en train de boucler un accord de Front Populaire, c'est le nom qu'ils ont donné à cette nouvelle NUPES. Front Populaire, donc, qui est une alliance de quatre partis politiques, la France Insoumise, les écologistes, les communistes et les socialistes, qui vont donc se mettre d'accord sur présentations de candidats dans les circonscriptions pour ne pas se gêner les uns les autres et se garantir donc une arrivée au second tour et potentiellement une victoire. Le NPA, à ma connaissance, ne fait pas partie des accords dans les circonscriptions. Le NPA a annoncé qu'il soutenait le Front Populaire, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir des circos. Ou alors, s'ils ont des circos, sur le quota de qui est-ce qu'ils sont pris ? Les discussions sont en cours. Les discussions sont en cours. Pour l'instant, le NPA, au début, c'était sans condition, son soutien. Le NPA veut proposer des candidats. Ça ne m'étonne pas que le NPA veuille proposer des candidats. Ça m'étonnerait qu'on lui donne des circonscriptions. Pour une raison très simple, c'est que le NPA ne fait pas peur. Le NPA n'a pas de poids politique dans les élections législatives. Ils n'ont pas de circo, ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de force électorale phénoménale, le NPA. Donc voilà, c'est exactement pareil pour Reconquête avec le RN. On a vu que Marion Maréchal était allée à la rencontre de Marine Le Pen dans le but d'éventuellement négocier un accord électoral. La réalité, c'est que Reconquête, ils se sont misérablement plantés aux élections législatives en 2022. Ils n'ont pas de circonscription, donc ils font pas peur. Donc le RN n'a pas intérêt à leur filer des circos. Qu'est-ce qu'ils ont en échange? Donc, voilà. On verra si le Front Populaire décide de laisser quelques circonscriptions gagnables au NPA, mais franchement, ils n'ont pas intérêt à le faire. En termes d'intérêt électoral pur, le NPA n'a pas grand-chose à apporter. dans la voilà. Désolé, mais je ne comprends pas grand-chose malgré la vulgarisation. Ah, je suis désolé, j'essaye de simplifier au maximum. Essaye de me dire si je peux t'expliquer quelque chose. Je suis là pour vous expliquer les choses. Si vous êtes largué, n'hésitez pas à poser des questions. C'est mon rôle d'essayer de vous expliquer. Vous sous-estimez l'ancrage militant qu'a le NPA. Je ne sous-estime pas l'ancrage militant. Je suis réaliste sur l'ancrage électoral. C'est ça qui compte, c'est les électeurs, pas les militants. Merci pour les subs offerts au chat, merci beaucoup. Toujours pas de tête de liste Front Populaire. Alors, il n'y a pas de liste aux élections législatives, mais tu as raison, se pose la question de savoir si le Front Populaire arrivait majoritaire à l'Assemblée nationale, et que donc il avait le pouvoir de gouverner le pays, qui serait le Premier ministre ? Qui serait le chef de cette majorité ? Pour l'instant, il y a des noms qui ont été donnés. On a entendu parler de Laurent Berger, l'ancien secrétaire général de la CFDT. On a entendu parler de François Ruffin, qui a été l'initiateur du non-Front Populaire dans la matinale de France Info lundi matin. Donc voilà. Est-ce que d'autres noms peuvent émerger ? C'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un de peu connu, qu'on ne connaît pas. Un acteur de la société civile, par exemple, un associatif, un ou une, hein. Un ou une syndicaliste. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, je n'ai pas entendu de responsable du Front Populaire citer son nom. Si jamais la gauche est élue, peut-elle changer le mode de scrutin pour ne pas avoir à s'unir péniblement tel qu'ils le font maintenant, où c'est lié à la 5ème République ? Non, tu as raison, c'est une bonne question que tu poses. Si la gauche arrive au pouvoir, elle a la possibilité de voter une loi, parce que c'est une loi organique qui organise les élections législatives, pour mettre un scrutin proportionnel. François Mitterrand l'avait fait en 1986, la proportionnelle intégrale. Hop là. C'est quoi ce bazar avec les Républicains ? C'est pas aux électeurs de décider ce genre de choses. Alors non, c'est pas aux électeurs de décider de la présidence d'un parti politique, c'est aux adhérents qui votent pour élire le président du parti. Je crois me souvenir que chez les Républicains, c'est un vote direct. Tous les partis politiques ont des modes différents de démocratie interne. Il y a des partis qui n'ont pas de démocratie interne, comme la France Insoumise, le Rassemblement National, très peu. Il y a des partis qui ont énormément de démocratie interne, comme le Parti communiste par exemple, où ça vote à balle dans tous les départements, etc. C'est le bordel. Chez les Républicains, de mémoire, ce sont les adhérents qui votent pour élire le président et les membres du Conseil national, dont est issu le bureau politique. Et donc c'est vrai que la question se pose de savoir si le bureau politique peut voter l'exclusion, comme ils l'ont fait, du président. Je ne sais pas si c'est écrit dans les statuts des Républicains. C'est quoi le truc des circonscriptions ? Qu'est-ce que ça a à voir vu que l'Assemblée a été dissoute ? Je pige pas trop. L'Assemblée a été dissoute, donc il va y avoir de nouvelles élections. Or, les élections des députés se font dans les circonscriptions. Voilà. Les circonscriptions, ce sont des zones géographiques qu'on détermine par la taille de la population, au sein de laquelle vont se présenter des candidats pour essayer de gagner l'élection. En fait, dans chaque circonscription, tu as une mini-présidentielle. Pour élire le député ou la députée de la circonscription qui ira siéger à Paris. C'est ce qu'on appelle le scrutin majoritaire, par circonscription. Pourquoi Macron affirme si sûrement que ce sera Mélenchon dans sa conf de presse ? Macron fait ça parce qu'il sait que Jean-Luc Mélenchon fait peur. Il sait que Jean-Luc Mélenchon fait peur à beaucoup d'électeurs, notamment les électeurs sociaux-démocrates qui ont voté pour Raphaël Glucksmann. C'est toute une partie de la gauche qui n'aime pas la personne de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron cite Jean-Luc Mélenchon parce que voilà, parce qu'il sait que ça fait peur à des électeurs et que ça peut faire perdre des voix au Front Populaire. Donc c'est tactique de sa part de faire ça. La proportionnelle favoriserait plutôt l'extrême droite. Non, la proportionnelle ne favoriserait pas nécessairement l'extrême droite. L'extrême droite est très unie dans un seul et même parti, le Rassemblement National, qui fait des bons scores. Mais si tu regardes la gauche, à la proportionnelle, elle remporterait elle aussi plus de 30% des voix. Plus de 30% des sièges de députés. Donc non, la proportionnelle ne favoriserait pas nécessairement plus l'extrême droite que la gauche. Ou le centre, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un bureau politique ? Un bureau politique, c'est l'une des instances dirigeantes d'un parti politique qui fixe les orientations politiques du parti. Voilà. T'as aussi le Conseil national, qui est le parlement du parti, dans lequel il y a des délégués de toutes les fédérations qui viennent siéger. Encore une fois, chaque parti politique a son mode d'organisation. Pourquoi Macron pense-t-il que la constitution du Front populaire est-elle contre nature ? Emmanuel Macron juge qu'il est contre nature de faire une alliance entre des sociaux-démocrates et des insoumis, parce qu'il estime qu'ils sont trop différents, qu'ils ont trop de points de vue différents. Au demeurant, ce qui lui donne raison, c'est que pendant toute la campagne des européennes, la France insoumise et Raphaël Glucksmann se sont engueulés et ont étalé leurs divergences. Donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron en profite pour dire qu'est-ce que c'est que cette alliance contre nature, ne votez pas pour ces gens-là, regardez, ce ne sont que des rabibochages d'appareils, il n'y a pas de conviction derrière, si vous regardez dans le détail, ils sont d'accord sur rien, ils se détestent. Au demeurant, on pourrait rétorquer à Emmanuel Macron que la gauche en France a toujours été plurielle, sauf à quelques époques où le Parti Socialiste était tout puissant, mais le Parti Socialiste en interne, il était pluriel, je vous jure qu'il était pluriel. C'est crédible selon toi que Macron vise une démission pour pouvoir faire un troisième mandat ? Non, ça c'est une légende qui circule sur internet. Ce n'est pas vrai, Emmanuel Macron n'a pas le droit dans la constitution de faire plus de deux mandats successifs. Un mandat écourté par une démission reste un mandat. Donc il n'a pas le droit de se représenter après une démission, ce n'est pas vrai. En revanche, s'il laisse passer un mandat de son successeur ou de sa successeuse après lui, il pourra se représenter. Un peu comme avait fait Vladimir Poutine en Russie. Ça, il pourrait le faire, oui. Mais la Constitution est très claire, pas plus de deux mandats successifs. Aubry et Glucksmann votent pas genre à 90% pareil au Parlement européen ? Ça, j'en sais rien. Puis en plus, les pourcentages de votes similaires au Parlement européen, faut s'en méfier parce qu'il y a des systèmes de coalition au Parlement européen, donc les partis se mettent d'accord, et en fait le vote, il est très souvent largement majoritaire, parce que des partis votent la même chose, mais pour des raisons différentes. C'est un peu spécifique, le Parlement européen. Est-ce que Ciotti a véritablement été exclu ? Éric Ciotti a, semble-t-il, fait l'objet d'un vote du bureau politique de son parti, qui a voté à l'unanimité son exclusion du parti. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'ils ont les moyens, est-ce qu'ils ont le droit dans les statuts de voter ce genre de truc ? C'est pas sûr. À mon avis, Éric Ciotti va contester cette décision du bureau politique en disant « Non, le bureau politique n'a pas le droit de voter mon exclusion, l'exclusion du président. » Auquel cas, ça va se régler devant la justice. Est-ce que si son successeur, Attal par exemple, est élu un ou deux ans et démissionne, Macron peut revenir ? Oui. Si le RN retire la validation de conditionnalité s'il passe, ça donnerait une chance à Macron de se représenter ? Ah, tu veux dire si le RN arrive au pouvoir, change la constitution ? Pourquoi il ferait ça ? Non, en plus, ils n'ont pas besoin. Non. Non, mais je sais que sur Internet, il y a plein de gens qui se montent le bourrichon sur un hypothétique scénario secret où Emmanuel Macron ferait exprès de manière à démissionner. Et comme il démissionne, ça annule la règle de la Constitution. Comme ça, il peut se représenter une troisième fois. La réponse est non. Cette idée-là, elle vient d'une jurisprudence du Conseil d'État et d'une interprétation extensive qui en a été faite par Jean-Jacques Urvoas à l'époque. dans un pauvre billet de blog. Il y a des complotistes qui sont montés le bourrichon sur ce truc-là. Tous les professeurs de droit public qui ont été consultés et qui se sont exprimés sur le sujet ont tous dit non, ça ne marche pas. La Constitution est claire, pas plus de deux mandats successifs. Donc Emmanuel Macron ne peut pas se représenter après deux mandats successifs, quand bien même il interrompt un de ses mandats par une démission. Ça ne change rien. Le Front populaire peut-il ne pas être considéré comme un parti politique et donc, même en cas de victoire, voir le second prendre le pouvoir ? Peu importe, Front populaire, que ce soit une marque ou que ce soit un parti politique, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est les députés qui vont arriver à l'Assemblée nationale. Le Front populaire, c'est une alliance électorale entre différents partis. Donc vous allez avoir des députés de différents partis politiques qui vont arriver et qui vont siéger dans différents groupes politiques à l'Assemblée nationale. Ces groupes politiques vont pouvoir faire une coalition et travailler ensemble pour éventuellement gouverner le pays. Par exemple, Emmanuel Macron, on l'oublie un peu souvent, mais Emmanuel Macron, il est lui-même à la tête d'une coalition à l'Assemblée nationale. Il y a Renaissance, il y a le Modem, il y a Horizon. Ce sont trois groupes politiques différents qui sont d'accord pour gouverner ensemble le pays. Et bien, ce pourrait être pareil pour une union de la gauche, comme ça a déjà été le cas, par exemple, à l'époque de Lionel Jospin. Lionel Jospin était à la tête d'une union de la gauche. Merci Altice, des bisous. Il était à la tête d'une union de la gauche. Il y avait les Verts, il y avait les socialistes, il y avait les radicaux, il y avait les communistes. Voilà, c'était ça l'union de la gauche. De Lionel Jospin à l'époque. On l'appelait la gauche plurielle, c'était le nom qu'on lui avait donné. Si Macron démissionne, ça se passe comment ? Il continue de diriger le pays jusqu'à la fin des élections anticipées ? Non, si Macron dépose sa démission, elle est effective immédiatement. L'intérim est assuré par le président du Sénat. Et les élections présidentielles sont organisées très rapidement. De mémoire, c'est genre un mois et demi, deux mois plus tard. Ça va très vite. Moins rapide qu'une dissolution. Moins rapide qu'une dissolution, ouais. Penses-tu qu'il y a une probabilité pour qu'il donne sa démission ? Écoutez, j'en sais rien. On fait tous des scénarios dans nos têtes. Si le Rassemblement National remporte plus de la moitié des circonscriptions et arrive majoritaire à l'Assemblée nationale, peut-être qu'Emmanuel Macron en prendra la mesure en annonçant sa démission du poste de président de la République. C'est possible. C'est complètement possible. Mais il faut pour ça que le RN arrive à remporter les élections. Mais il pourra aussi refuser de démissionner et continuer à présider en cohabitation. Comme on l'a dit, comme l'avait fait François Mitterrand en 1986, quand François Mitterrand perd les élections législatives, il y a plein d'observateurs qui se demandent, tiens, le président va-t-il démissionner ? Eh bien le président, non, il a dit non, je ne vais pas démissionner. Je vais nommer un Premier ministre de cohabitation, et puis on va cohabiter. Est-ce qu'il y a un cooldown pour redissoudre l'Assemblée nationale ? Oui, il y a un cooldown d'un an. Après une dissolution, vous ne pouvez pas redissoudre avant un an. Faut-il changer de constitution ? Ça, c'est une bonne question. Pour changer de constitution, il faut soit avoir les 3/5 du Congrès ou alors avoir un référendum majoritaire. C'est un processus lent, hein, le changement de constitution. Le mandat des nouveaux députés sera-t-il de 5 ou de 3 ans ? Ça va dépendre de ce qui va se passer en 2027. Si l'Assemblée élue En 2027, si on élit un président de la République différent de la majorité à l'Assemblée nationale, en 2027, le premier truc qu'il fera une fois président de la République, c'est dissoudre l'Assemblée nationale. C'est exactement ce qu'avait fait François Mitterrand en 81, en 88, après sa réélection. C'est logique, en réalité. À ce moment-là, ça voudrait dire que les députés qui ont été élus là, ils ne siégeront que 3 ans. Et puis, qui sait, il y aura peut-être une autre dissolution d'ici 3 ans, j'en sais rien, je ne sais pas. On verra. Est-ce que tu penses que Macron était sincère dans sa presse conférence ? Oui, bien sûr. Non, mais Emmanuel Macron, il est sincère. Emmanuel Macron, il dit ce qu'il pense. Il pense ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Emmanuel Macron, il croit sincèrement à la possibilité d'un chemin entre les extrêmes, ce qu'il appelle les extrêmes, le RN d'un côté et le Front Populaire de l'autre. Et il souhaite avoir une majorité de députés pour continuer son chemin, quoi. Donc si le RN passe en 2027, on pourrait avoir un président RN plus une assemblée RN. Oui, enfin, il y a 2 conditions à ce que tu dis. Que le RN gagne les législatives et que le RN gagne les présidentielles. Tu m'accorderas que c'est valable pour tous les partis, ce qu'on est en train de dire. C'est complètement valable pour tous les partis. C'est valable pour le RN, mais c'est valable pour les autres aussi. Comment est choisi le Premier ministre dans une cohabitation ? Dans une cohabitation, le Premier ministre, c'est le chef naturel du parti qui est arrivé à la majorité. En 1986, c'était Jacques Chirac. C'était évident, c'était lui. C'était le chef du parti qui venait de gagner les élections. En 97, c'était évident que c'était Lionel Jospin. Il était le premier secrétaire du Parti Socialiste qui venait largement de remporter les élections. Bon, bah voilà. Merci pour vos abonnements. Je vous remercie pas quand vous vous abonnez. Je voulais juste vous remercier du fond du cœur. Merci pour votre soutien. J'en ai besoin. Ça me touche, ça me fait plaisir. Et merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez un abonnement Prime qui traîne, vous pouvez le claquer, c'est gratos. C'est une règle, ça, chef de la majorité. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est cette obligation de nommer le chef de la majorité Premier ministre, c'est une obligation d'ordre politique. Vous ne pouvez pas nommer un ministre minoritaire, vous ne pouvez pas nommer un gouvernement minoritaire. Vous êtes obligé de choisir la personne qui a le plus de chances de porter sur son nom une majorité de suffrages à l'Assemblée. C'est une règle mécanique, c'est une règle politique. La raison est ça, elle est très simple, c'est que, imaginez, vous nommez un Premier ministre minoritaire, il arrive à l'Assemblée, il dit « Bonjour mesdames et messieurs les députés, je vous propose une loi ». Les députés, ils vont voter contre sa loi. Donc en fait, il ne va pas pouvoir gouverner, puisqu'il n'a pas le pouvoir politique que lui conférerait la majorité. Il faut qu'il ait la confiance de l'Assemblée, ce qu'on appelle avoir la confiance. D'ailleurs, ça existe, ça s'appelle le vote de confiance, où les députés votent majoritairement ou pas pour faire confiance au Premier ministre sur une déclaration de politique générale, que vous pouvez suivre en direct sur ma chaîne Twitch. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, le président de la République, il est contraint par la réalité politique de la composition de la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, pour nommer un Premier ministre. Quand le président de la République a une majorité à l'Assemblée, ce qui a été le cas pour Macron pendant 5 ans de 2017 à 2022, alors à ce moment-là, il a les coudées franches pour nommer qui il veut. Il avait choisi Édouard Philippe, mais il a choisi ensuite Elisabeth Borne, Jean Castex, Gabriel Attal. Il peut choisir un peu qui il veut, y compris des inconnus comme Jean Castex. Mais quand la majorité n'est pas favorable au président de la République, alors il n'a plus le choix. C'est plus lui qui décide, c'est la majorité qui décide. Hmm. Ah, Jean Castex, vous vous souvenez, hein? J'ai vu que Liot pourrait aller avec le Front Populaire, ça va se faire, tu penses? Non, je pense pas. Non. Dans Liot, il y a des députés tellement différents les uns des autres, c'est des indépendants et tout, je les vois pas se rallier au Front Populaire. Quelques-uns peut-être, mais... Est-il possible que la majorité se retourne contre le président? C'est rare. Parce qu'en général, vu que les élections législatives suivent l'élection présidentielle, les députés sont élus dans la même vague politique que le président de la République, à qui ils ont une fidélité. C'est ça, la structuration et la force des institutions de la Ve République. C'est déjà arrivé une fois qu'une majorité se retourne contre le président, c'était en 62. C'était De Gaulle qui avait proposé un référendum sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Retirant donc ce pouvoir aux députés, les députés n'ont pas du tout apprécié, ils ont voté la censure du gouvernement, le général de Gaulle a dissous l'Assemblée pour les punir, et il a remporté les élections dans la foulée. Donc le général de Gaulle s'est vu conforté par les urnes dans sa décision. C'est une autre époque, hein. C'est les années 60, voilà... Il y a aussi eu la cohabitation de 97 Chirac Jospin. Oui, mais c'est pas une majorité qui s'est retournée contre son président. C'était une nouvelle majorité qui a été élue, qui était contre le président. Il faut quelle proportion pour destituer un président? Je sais plus. Putain, j'avais fait une vidéo sur YouTube il y a genre 7 ans là-dessus, sur la destitution du président de la République. Vous pouvez la retrouver dans mes archives sur YouTube, mais non, je sais plus. C'est peut-être les 3/5 ou les 2/3. Majorité absolue de la haute cour. Ah, c'est la haute cour qui prend la décision. Attends, je vais essayer d'exhumer cette vidéo. Putain, ça remonte à l'époque d'Acropolis. Alors, ma chaîne. Hop.
Tu fais la grève de la planche à repasser.
Chut, ouais. Ta gueule. La première saison de Backseat. Le The Event. Ça s'appelait Jean t'explique. Oh la nullité. Comment destituer un président? C'était il y a 4 ans.
Procédure de décision.
Oh l'époque!
Abus de pouvoir, obstruction à la justice, Donald Trump donc qui a abusé de son pouvoir en demandant au président d'une chambre, enfin d'un pays étranger, d'ouvrir une enquête sur un de ses opposants politiques.
Le son est trop fort.
Sur les activités d'un de ses opposants politiques et en faisant pression sur ce gouvernement, en l'occurrence on parle de l'Ukraine, sur le fait de ne pas lui verser les aides militaires prévues s'il ne se montrait pas coopératif sur cette manœuvre. Donc ça c'est l'abus de pouvoir et l'obstruction à la justice c'est le fait que le président Trump a...
Il y a un truc très important, c'est que sur la télé derrière où il y a le logo Acropolis, il y avait les abonnés. Quand vous vous abonniez sur Twitch, ça s'affichait sur la télé derrière moi. J'étais vachement fier de ce système, hein.
Refuser de collaborer avec la Chambre des représentants dans la procédure. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que la Chambre des représentants a voté hier un texte qu'on appelle de mise en accusation, dans lequel, en gros, la Chambre des représentants, à l'issue de plusieurs mois d'enquête, disent ce qu'ils reprochent au gouvernement. Et la suite de la procédure, c'est qu'ils l'envoient au Sénat et que le Sénat doit prendre la décision de l'ouverture d'un procès.
C'est bien parce que je parle pas du tout du sujet.
Destitution du président américain. Il faut savoir, et c'est important, que la Chambre des représentants est à majorité démocrate, donc opposée à Donald Trump, alors que le Sénat est à majorité républicaine, donc favorable à Donald Trump. Ce qui fait dire à tout le monde, et c'est vrai, enfin c'est fort probable, que Donald Trump ne sera plus inquiété outre mesure, le Sénat ayant très peu de chances de voter la destitution d'un élu de son propre parti. Donc c'est pour ça effectivement qu'il y a plein de gens qui disent que Trump peut dormir sur ses deux oreilles. Faute de vote du Sénat, la procédure de destitution s'arrêtera là. Mais figurez-vous que par le passé, il est arrivé à plusieurs reprises que des procédures n'aillent pas jusqu'au bout. En fait, la procédure d'impeachment en elle-même, elle est politique.
Je parle pas du tout du sujet dont c'est le titre de la vidéo, quoi. J'adore.
Entre la sanction
justice. Je parle de destitution de Trump.
Même. Un président américain ne va pas jusqu'au bout de sa procédure de destitution, donc il n'est pas destitué de son pouvoir. Quand bien même ça irait pas jusqu'au bout, le simple fait qu'il y ait une procédure, ça attire l'attention des médias, ça montre les manquements du président, réels ou supposés, hein, je dis pas. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis au cours du mois qui vient de s'écouler. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas arrêté de parler de l'impeachment, de la procédure, des manquements, les auditions ont été largement diffusées, etc. Donc en fait, le président qui subit ça a déjà, en partie, avant même d'arriver au bout du procès, il a déjà subi beaucoup politiquement. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis actuellement, notamment depuis Trump, il semblerait que le fait de subir toute cette pression de l'opinion publique, des médias sur des procédures, sur de la corruption, sur des abus de pouvoir, etc.
C'est chiant, hein.
Il semblerait que ça n'ait pas d'impact particulier sur le soutien des supporters de Trump à son égard. Autrement dit, Trump s'en bat globalement les couilles. Richard Nixon, président des États-Unis, a démissionné avant la fin de la procédure, au moment du scandale du Watergate, dans les années 70. Selon les sondages, il sera réélu. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait un jeu de mots dans le tweet.
Je ne sais pas pourquoi ça sort, ce bandeau.
Parce que, de la même manière que Patrick Balkany continue à avoir un fort soutien d'une partie de l'électorat à Levallois, malgré toutes les affaires qui traînent, Trump, c'est à peu près pareil. D'ailleurs, c'est Trump qui avait utilisé l'expression lui-même. Il avait dit « si je descendais dans la rue et que je tuais à bout portant un citoyen, il voterait quand même pour moi », en désignant les gens qui votent pour lui. Et c'est vrai. C'est vrai que Donald Trump ne subit pas politiquement les conséquences de ses déboires juridiques. Voilà. Et c'est intéressant à constater. Est-ce que les déboires judiciaires d'un homme politique doivent se traduire par un détournement politique ? Est-ce que c'est normal que les gens continuent à soutenir des hommes et des femmes politiques qui ont des déboires avec la justice ? Est-ce que c'est parce qu'il joue la carte du complot contre lui, ce qui polarise et renforce son électorat ? Oui, moi je pense. Je pense effectivement que Donald Trump se pose en victime et que ça marche très très bien. Je sais pas si vous avez déjà liké des pages Facebook.
Ah, je comprends pourquoi j'ai arrêté Acropolis.
Hein. Donald Trump pour la prochaine élection en 2020. C'est assez intéressant. Moi,
c'est un peu la nostalgie, ouais, je suis d'accord.
Un peu l'ambiance
à l'ancienne.
Ces pages-là. C'est vachement intéressant. Tu vois le ton que les gens emploient. Donald Trump a vraiment l'air d'être un opposant politique. Il le présente vraiment comme la victime d'un système, des méchants démocrates. T'as l'impression que les démocrates sont au pouvoir, en fait. Ils s'en prennent à Clinton, ils s'en prennent à Nancy Pelosi, ils s'en prennent à Joe Biden, ils détestent les démocrates, ils défendent Trump comme étant un héros, un rebelle, vraiment comme si le mec était pas au pouvoir, quoi. Enfin, en gros, Trump, il refuse l'idée d'avoir été impeached par une chambre parlementaire de son pays. Il considère que c'est...
Je vais y venir à un moment, à la destitution en France.
Oui, de la part des démocrates qui ont essayé de le foutre dans la merde. Alors du coup, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir est-ce que la destitution, ça existe en France.
Ah, enfin.
La réponse est oui. Il y a,
au bout de 5 minutes de vidéo,
la destitution qui prévoit ça, article 68. Vous connaissez Légifrance ? Voilà, c'est un site internet absolument magnifique. Avec tous les textes de loi possibles et imaginables. Donc, on a la Constitution du 4 octobre, avec dans le bloc la Déclaration des droits de l'homme, le préambule et la Charte de l'environnement de 2004. On va aller sur le texte de la Constitution, paf ! La Constitution, le préambule, l'article 1, le titre 1er sur la souveraineté, le titre 2 sur le président de la République, titre 3 sur le gouvernement, titre 4 sur le Parlement, tout ça vous connaissez par cœur, titre 5 sur le rapport entre le Parlement et le gouvernement, évidemment, l'article 49.3 il est là, titre 6 les traités et accords internationaux, titre 7 le Conseil constitutionnel, l'autorité judiciaire et la Haute Cour. Hop, là, j'en reviens
pas, c'est chiant.
Le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité sous réserve des dispositions de l'article 53.2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances de procédure auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant les cessations de ses fonctions. Ça, c'est un article très important, l'article 67, qui prévoit l'irresponsabilité du président de la République sur les actes fondés pendant son mandat. C'est un article qui permet au président de la République de ne pas être inquiété juridiquement après son mandat sur la base de décisions qu'il aurait prises pendant son mandat, ce qui garantit du coup la séparation des pouvoirs. Parce qu'évidemment, si tu es président de la République et que tu te mets à avoir peur de prendre des décisions par crainte d'être poursuivi pour avoir pris ces décisions par le pouvoir suivant, donc voilà, on a un article de la Constitution qui prévoit de lutter contre cette non-séparation des pouvoirs. Et ensuite, l'article 68 est important, ce qui prévoit justement la possibilité de juger le président de la République. Le président de la République peut être destitué, ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. La proposition des réunions de la haute cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les 15 jours. La haute cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois à bulletin secret sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article sont à majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée concernée ou la haute cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la haute cour ou la destitution. Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. Il y a la possibilité pour le président de la République en France d'être destitué s'il a manqué à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat.
On a la réponse. Au bout de 7 minutes de vidéo, putain, elle est horrible cette vidéo hein, quand j'y repense. Je comprends qu'elle n'ait que 15 000 vues, elle en mérite pas beaucoup plus. Non, mais je débutais dans la YouTuberie à l'époque. Hein. C'était nouveau. Majorité des deux tiers de la haute cour pour destituer. C'est ma troisième vidéo. Tu regardes pas la caméra. Non, je regardais pas la cam. Enfin, c'était la même que celle-là d'ailleurs. Parce que je l'ai ressorti là. On les avait achetés à l'époque pour Acropolis. Enfin bref, nostalgie. Comment se passe l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale? Au scrutin majoritaire à bulletin secret. Des députés. Voilà. C'est les députés qui élisent leur président ou leur présidente. Si le Front Populaire arrive au pouvoir, la 6ème République peut-elle voir le jour? Non, parce que le Front Populaire n'aura pas l'Élysée et que tu as besoin de l'Élysée pour déclencher un processus référendaire ou un processus de modification de la Constitution. Je crois. Et puis par ailleurs, le Front Populaire n'est pas majoritaire au Sénat. Après, il faut vérifier si, avec la majorité, avec une hypothétique majorité de députés Front Populaire plus les députés de gauche du Sénat, est-ce que ça fait les 3/5 des votes au Congrès ? Mais après, la 6ème République voulue par la France Insoumise, c'est un processus assez long qui est proposé, avec une assemblée constituante, etc. Donc c'est pas en un claquement de doigts que ça va se faire. Il faut un vote conforme du Sénat avant d'aller au Congrès, donc c'est mort. Oui, c'est vrai, t'as raison en plus. C'est quoi le plus haut taux de majorité dans une chambre? Oh putain, c'est une bonne question, parce que là, tu me demandes de... Sur toutes les élections législatives qu'il y a eu depuis 1958, peut-être que c'était De Gaulle. Peut-être que c'était en 1993. La droite avait largement gagné les élections. Ce qu'on appelait la vague bleue à l'Assemblée nationale en 93. Énorme victoire de la droite, du RPR, qui avait je sais plus combien d'élus, mais c'était énorme. Um... Est-ce que cette élection législative à venir repousse la prochaine élection à 5 ans? Oui, mais il y a une forte chance que le prochain président de la République, élu en 2027, dissolve l'Assemblée nationale dès son élection. Auquel cas, on retrouverait un rythme plus habituel. Est-ce que le Sénat peut être dissous? Non, le Sénat ne peut pas être dissous. Le Sénat est indépendant, il ne peut pas être dissous. Il est protégé de la dissolution. En échange de quoi, il ne peut pas renverser le gouvernement. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui demandait s'il allait avoir backseat jusqu'aux élections. Alors, pour être très clair, normalement, il était prévu que l'émission de demain soit la dernière de la saison. On voulait clore la saison après les européennes pour parler des résultats des européennes, débriefer tout ça, et ensuite vous laisser partir pour l'été. Le problème, c'est qu'il y a eu la dissolution qui a été engagée par Macron dès dimanche soir. Et là, du coup, bah, ça a ouvert une phase extrêmement intéressante politiquement, où il va y avoir des élections législatives là dans moins d'un mois. Du coup, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire deux émissions supplémentaires de backseat vers la fin du mois, du coup, vers les élections législatives, pour débriefer un peu les résultats du premier puis du second tour des législatives sur backseat. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas assez d'argent pour faire ces deux émissions. Donc, on vous demande de participer au financement de backseat en vous rendant sur la page KissKissBankBank en faisant un don. Vous avez plusieurs modalités de dons qui vous sont proposées ici. N'hésitez pas à rejoindre le club backseat en faisant un don de 15 euros par mois. Ça nous permettra de faire des émissions, y compris pour la saison prochaine. On mise beaucoup sur l'abonnement, donc sur les dons mensuels, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir de la visibilité et de prévoir des émissions sur le temps long, y compris sur l'année prochaine, la prochaine saison, etc. Donc n'hésitez pas, si vous ne le faites pas déjà, à soutenir Backseat sur KissKissBankBank. Il vous suffit de cliquer là, de rentrer vos informations bancaires. Et voilà, vous pouvez aussi faire un don ponctuel, ici. Donc pas de don mensuel, mais juste un don maintenant de 10 balles, 20 balles, 30 balles, ce que vous voulez. On prend aussi, ça nous permettra de financer les deux émissions du mois de juin. Voilà. Vous avez la possibilité et l'envie de faire des émissions un peu moins chères pour la fin de saison. En réalité, il n'y a pas de possibilité de faire des émissions moins chères. Ce qui coûte cher, c'est le salaire qu'on paye pour les techniciens, pour les chroniqueurs, pour les journalistes, etc. Enfin, pour toutes les personnes qui font vivre l'émission Backseat. Et on ne peut pas couper dans les dépenses, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Une émission, ça coûte un tarif minimum et on est déjà au minimum, en fait. Est-ce qu'on est obligé de payer les techniciens? Oui, on est obligé de payer les techniciens. Ça, c'est une obligation qu'on se donne et qu'on respecte. On respecte le droit du travail, on paye les gens à la hauteur du prix que ça coûte. Et on vous propose pas des émissions à l'arrache en mode web TV étudiante, un peu le bordel où tout le monde est bénévole, c'est un peu le dawa, etc. Non. Nous, on paye les gens, on les paye sur facture, on les paye sur fiche de paye, ça dépend des statuts. Mais voilà. On préfère vous dire combien ça coûte et vous proposer de participer au financement plutôt que de vous dire vous inquiétez pas, ça coûte que dalle, c'est pas cher, c'est gratos, ça fait plaisir, c'est à l'arrache. Non, c'est pas à l'arrache. Vous avez déjà des invités de prévu. Demain, on aura Clément Viktorovitch qui sera avec nous sur le plateau. Et on n'a pas d'invité politique demain. On fait une émission spéciale dissolution sans invité politique. Demain, quelle heure? Demain, 19h. Demain, 19h. Tu streames ce soir pour Mélenchon? Non, je n'ai pas les droits. Je n'ai pas les droits à l'image. C'est interdit de reprendre le flux d'une chaîne de télévision dont on n'a pas les droits. Il fait quoi Mélenchon ce soir? Il est invité, je crois, aux 20h de France 2. Ou TF1, je sais pas. France 2, ok. J'ai raté un bout, je pose la question. Est-il vrai que les listes électorales sont closes et ne seront pas ouvertes pour les législatives? Oui, c'est vrai. Le décret d'organisation des élections législatives est paru. Le ministère de l'Intérieur annonce que les listes électorales sont closes. On n'a pas assez de temps pour renouveler les listes électorales d'ici au 30. J'ai entendu dire qu'il y avait le Conseil constitutionnel, qui est le juge des élections, qui était saisi par la France insoumise contre cette décision. On verra la réponse des sages du Conseil constitutionnel, mais il y a de fortes chances que le Conseil constitutionnel valide cette décision en disant effectivement les services n'ont pas le temps d'ouvrir les listes électorales pour cette élection, compte tenu du délai très court. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales à la date du décret de dissolution, donc le lundi, vous ne pouvez pas aller voter pour les élections législatives. Mais si vous êtes inscrit sur les listes électorales d'ores et déjà, alors il n'y a aucun problème, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. Vous êtes inscrit sur les listes électorales. Vous avez pu voter pour les européennes, alors vous pourrez voter pour les législatives. Donc voilà. Le délai d'inscription, c'était hier, j'ai pu le faire à temps perso. Écoute, tant mieux. Tant mieux pour toi. Si Macron démissionnait, pourrait-il se représenter en 2027? Non. Tu devrais l'écrire sur ton front. Non, mais je sais qu'il y a plein de gens qui posent la question parce que je sais que ça circule sur Internet, cette théorie. Mais elle date d'il y a plusieurs années. Hein. C'est une fake news qui date d'il y a plusieurs années. Si Macron démissionne, que se passe-t-il? De nouvelles élections présidentielles sont organisées. C'est tout. Si Macron démissionnait, pourrait-il se représenter en 2032? Alors je vous rappelle la règle. Vous ne pouvez pas faire plus de deux mandats successifs ou consécutifs. Je ne sais plus comment c'est écrit exactement dans la Constitution. Donc vous pouvez faire deux mandats à la suite comme est en train de le faire Emmanuel Macron. Puis vous pouvez laisser passer un mandat ou deux et vous représenter. Ça, vous pouvez. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire un troisième mandat à l'issue de votre deuxième mandat successif. Comme Poutine à l'époque, comme Vladimir Poutine l'a fait en Russie. Il a fait deux mandats successifs, puis il est devenu Premier ministre, puis il a réété élu président de la République. Tu peux revenir et faire deux mandats, tu peux revenir et faire deux mandats successifs, mais pas trois. Puis tu es obligé à nouveau de laisser passer un mandat pour à nouveau, si tu le souhaites, te représenter pour un cinquième mandat. Pourquoi tu dis que c'est une fake news? Non, non, la fake news, c'est un scénario qui circule et qui dit que Macron démissionnerait en cours de son deuxième mandat, ce qui annulerait la Constitution et lui permettrait de se présenter pour un troisième mandat successif. Voilà, ce truc-là est faux. Des élections anticipées annulent celles de 2027. Oui, puisque le nouveau président ou la nouvelle présidente de la République élue ferait un quinquennat. T'en penses quoi de cette règle des deux mandats successifs? Oh, mais c'est bien, moi c'est une bonne règle, hein, les deux mandats successifs, pour empêcher les présidents de cumuler les mandats dans le temps, avoir quelqu'un qui reste au pouvoir pendant trop longtemps, c'est relou. Déjà, deux mandats successifs, c'est beaucoup. Rappelez-vous, Mitterrand, il avait fait deux septennats, 14 ans au pouvoir. Enfin, à l'Élysée, pas au pouvoir. Est-ce qu'un président peut dissoudre deux fois de suite l'Assemblée? Il doit attendre un délai d'un an entre deux dissolutions. Si le Front populaire remporte la majorité, Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre, c'est pas sûr. Ça doit faire partie des discussions entre les partis du Front populaire qui sont en train d'en discuter et qui doivent déterminer qui sera le Premier ministre ou en cas de victoire. Il y a plusieurs noms qui ont circulé, celui de François Ruffin, celui de Laurent Berger. C'est les deux principaux qui ont circulé. Mais voilà. Il semblerait que dans les discussions entre les partis du Front Populaire, il y ait plusieurs partis qui souhaitent pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon. C'est qui Laurent Berger? C'est l'ancien secrétaire général de la CFDT, qui est le premier syndicat chez les travailleurs du privé. Pourquoi on dit que la Ve République donne les pleins pouvoirs au président alors que de ce que je comprends, c'est surtout la majorité à l'Assemblée nationale qui dirige? Oui, tu comprends bien, c'est effectivement la majorité à l'Assemblée nationale qui dirige, mais quand la majorité à l'Assemblée nationale est de la même couleur que le président de la République, ce qui arrive très souvent, alors le président de la République a les coudées très franches et a largement trop de pouvoir, d'autant qu'il n'en subit pas les conséquences politiques lui-même. Il a un Premier ministre pour faire fusible. Mais il n'est pas responsable politiquement, sa responsabilité n'est pas engagée. Bon, il est 18h les amis, je vais m'arrêter là moi. Je vais m'arrêter là, merci à vous d'avoir été là, je vous donne rendez-vous demain pour Backseat, c'est à 19h. Une émission exceptionnelle, j'espère que ça vous plaira. Putain, je suis le deuxième plus gros live français. C'est ouf. derrière OTP. Énorme. Merci à toutes et à tous, soyez là demain 18h45. Ah bah c'est 18h45 alors. 18h45, backseat demain. Je vous fais des bisous, bonne soirée, merci d'avoir été là. Merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien. Des gros bisous les amis, c'était cool, à demain.